du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'entends des Amen virtuels sur toutes les ondes prononcées par les personnes qui nous écoutent en ce moment, je suppose. Et donc, le programme de ce soir, pour vous donner envie de rester jusqu'au bout, consiste en 2 heures, et j'essaie, comme vous l'avez vu pour le cours de liturgie, de faire en fait 2 cours différents, c'est-à-dire pour le moment, le premier cours c'est sur les enseignements de Maxime Kovalevski, et le deuxième cours c'est le commentaire et la présentation du typicon de l'église roumaine. Alors donc, ce premier cours donc c'est sur le professeur Maxime Kovalevski, je refais pas d'introduction à son sujet, je pense que c'est bien, c'est quand même assez clair maintenant. Encore que de temps en temps, on est obligé de se justifier, d'expliquer. Mais ça, on peut le faire. Ce que j'avais présenté la dernière fois, et ce qui va faire avoir une suite aujourd'hui, c'était en fait la question de la musique dans la célébration liturgique. Je pense que nous avons déjà expliqué un peu cela. Je voudrais dire en introduction que l'enseignement des saints-pères et donc des théologiens orthodoxes contemporains, c'est que la musique fait partie de la célébration liturgique sous une forme ou sous une autre, au même titre que, on va dire, l'icône, par exemple. Donc, de même que pour nous, les orthodoxes, que nous sommes, enfin que nous essayons d'être, il est impossible de prier sans au moins une icône, on va dire l'icône du Christ ou l'icône de la Mère de Dieu portant le Christ, sans un minimum d'orientation spatiale, sans un minimum, je sais pas, essayer d'avoir quand même la croix, l'évangile, je sais pas comment vous faites, mais moi par exemple, si je vais bénir une maison, quelquefois on n'a pas beaucoup de matériel avec soi, mais enfin on met une petite table quelque part, on trouve une icône, une image, quelquefois pas toujours très très belle, mais enfin bon, on trouve une croix et on trouve l'évangile. Bon, voilà, donc ça c'est un peu le minimum pour s'orienter. Et puis, on essaie d'avoir des attitudes physiques qui soient expressives, qui soient dignes, de ne pas être avachi, de ne pas être assis tout le temps, de ne pas avoir les jambes croisées, de ne pas avoir les mains derrière le dos, enfin. Donc il y a quand même dans la célébration liturgique une série de paramètres complémentaires qui accompagnent la parole, étant donc si on est d'accord que le principe de la liturgie c'est essentiellement le service de la parole sous une forme ou sous une autre, c'est ça la divine liturgie, mais donc autour de la parole, c'est-à-dire autour du Christ finalement quand même, hein, autour du Christ parole, du Christ verbe, et il y a donc d'autres paramètres qui permettent de l'honorer. Moi, je crois que ça se comprend comme ça, si vous voulez, la liturgie, c'est que, je ne sais pas, si on reçoit un jour à la maison, un soir ou un dimanche, quelqu'un de sa famille qu'on aime beaucoup, qu'on ne voit pas très souvent, et qui nous fait vraiment le cadeau de nous consacrer une soirée, et, ben, je ne sais pas, on va mettre des beaux habits, on va mettre des cierges neufs sur les bougeoirs de la table, on va faire un petit peu le ménage pour que ça brille, on va sortir les belles assiettes, je ne sais pas, enfin, en faire, c'est même pas un effort, je ne pense pas qu'on va faire un effort, mais si on a beaucoup d'amour pour la personne qu'on reçoit ou qu'on rencontre, je ne sais pas, ça nous, l'amour lui-même nous dicte des signes qu'il exprime. Il faut concevoir la liturgie essentiellement comme l'expression de l'amour que nous avons pour le Christ. Et que ce soit l'encens qu'on offre, que ce soit les lumières, que ce soit le fait que nous sommes tournés vers lui et non pas tournés les uns vers les autres ou tournés à l'extérieur. Et encore moins, je le dis en passant, en train de lire nos messages pendant la liturgie. Et si on est, c'est parce qu'on a de l'amour pour lui, c'est parce qu'on a de l'amour pour lui. Tout se comprend dans la divine liturgie comme l'amour du Christ Verbe, l'amour de sa parole, et pas l'aimantation, mais c'est pas la fascination non plus, mais l'amour aussi de sa présence invisible, le bonheur d'être avec lui, le bonheur de l'entendre, le bonheur d'être à ses pieds, comme a été Marie, vous savez, dans l'évangile de la résurrection de Lazare, et cette femme qui est au pied du maître et qui l'écoute. Mais cette place-là, si vous voulez, c'est une place c'est une place liturgique finalement quand même, même s'il est assis, parce qu'on est assis effectivement pour écouter la parole de Dieu d'ailleurs, c'est quand même une place liturgique. Donc c'est ça qui commande. Et dans cette panoplie, si je peux dire, qui nous sert à exprimer notre amour, eh bien il y a la musique. Il y a la musique. Ça c'est la première raison. Donc la musique exprime... sert à exprimer l'amour que nous avons pour le Christ. Pensez aux poètes, pensez la poésie, c'est très intéressant, comme la poésie séculière, si vous voulez. Regardez ces poèmes d'amour, ces poèmes qui chantent la nature, ces poèmes qui chantent la nation, ces poèmes qui chantent les héros. Regardez comme il est naturel à l'être humain d'utiliser la poésie et le chant pour célébrer les grands moments de la vie, les grands personnages qu'il rencontre, la mort d'un proche, un anniversaire, même les enfants écrivent un petit poème pour l'anniversaire de leur maman. Ce sont des choses naturelles. La liturgie est une activité naturelle. C'est ça qu'il faut comprendre tout de suite. C'est l'activité absolument naturelle à l'être humain. Et c'est plutôt l'inverse. C'est quand l'être humain n'a plus de vie liturgique, et quand il cesse d'offrir des fleurs à sa maman pour Noël ou pour la fête des mères, c'est à ce moment-là que ça devient inquiétant. Ça devient très très inquiétant. Quand on mange tout devant la télé, au lieu de faire du repas un moment de communion fraternelle, là ça commence à devenir très inquiétant. Parce qu'on est en train de perdre les comportements naturels qui consistent à se réunir, à partager quelque chose ensemble, en échangeant l'expérience. Regardez chez les anciens, on se met autour du feu, on mange quelque chose ensemble, les anciens racontent leurs souvenirs, les enfants écoutent, on pose des questions, la tradition se transmet par pléonasme, pardon, la sagesse des anciens se transmet là au cours de cette réunion familiale. Ce sont des choses naturelles. La liturgie est une chose naturelle. Donc c'est ça le premier plan. Maintenant, il y a une autre raison, et ça justement Maxime Kobylewski insiste beaucoup là-dessus, c'est que la musique dans la liturgie, comme la peinture, la couleur, le dessin dans l'icône, joue un rôle de transfiguration. Donc, si vous voulez, c'est un peu le degré au-dessus. Ce que j'ai dit, je maintiens, moi je suis beaucoup pour ça, pour qu'on retrouve l'instinct naturel de la célébration, le jaillissement naturel de la célébration, le jaillissement très simple, très sincère de la célébration et de la fête. Mais au fond, la liturgie, c'est une fête de famille, quelque part, quand même. On peut tout de même revoir les jours. Maintenant, il y a aussi un autre aspect, donc qui est celui-ci, qui est celui de la transfiguration de tout ce qui est du domaine sensible. Ça, c'est assez important. Alors, la transfiguration, elle se fait à la suite d'un phénomène qu'on appelle, d'un mot très précis, qui s'appelle la consécration. Alors, je reviens un petit peu sur ces notions que j'ai déjà expliquées une année précédente. En français, il y a plusieurs mots. Il y a sacré et saint, comme en hébreu, d'ailleurs. Il y a consécration et sanctification. Et puis, il peut y avoir transfiguration. Transfiguration est un mot très, 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 très précis et très fort qui veut dire, en fait, un changement dans les formes, un changement dans l'apparence. La transfiguration, c'est le même mot que métamorphose. C'est exactement le même mot, sauf que transfiguration, c'est un mot latin, alors que métamorphose, c'est un mot grec. Et c'est la même chose. Il s'agit donc d'un changement, non pas dans l'essence, c'est pas une mutation ontologique, si vous voulez, mais c'est une mutation dans les formes. Par exemple, le Christ, quand il a été transfiguré sur la montagne, il a changé d'aspect, en quelque sorte. C'est-à-dire que son aspect, qui était un aspect ordinaire quand ils sont montés sur la montagne, brusquement est devenu un aspect éblouissant, insoutenable au regard de ses disciples et ses apôtres qui sont tombés à la renverse. Donc il avait bien, c'était toujours lui, c'était toujours le même Christ, on pouvait l'identifier, mais son aspect était, presque insoutenable. De même, le prophète Moïse, quand il est descendu de la montagne de l'Horeb, après avoir reçu les tables de la loi, et son visage était éblouissant. Donc il y avait une transfiguration. Le prophète Moïse aussi était transfiguré. Il était transfiguré par la lumière divine, la lumière incréée. Bon, il y a d'autres phénomènes comme ça. Même le Christ au baptême, on ne le dit pas, mais le baptême du Christ, c'est aussi un phénomène de transfiguration. C'est-à-dire que un monsieur tout le monde qui vient être baptisé au Jourdain est d'abord reconnu par Saint Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu », donc il sort déjà de l'ordinaire, il sort de la foule, et après ça, le Père Céleste, d'une voix absolument extraordinaire, dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, il a toute ma bienveillance ». Et donc le Fils est transfiguré, non pas qu'il change de nature, non pas qu'il devient Dieu à ce moment-là, comme disent les hérétiques, alors qu'il était homme auparavant, ça c'est vraiment une conception complètement hérétique, enfin bon, mais c'est que c'est sa divinité qui apparaît dans la transfiguration. Il est transfiguré dans qui il est d'ailleurs, mais il apparaît avec le vol de l'esprit au-dessus de lui, et il est en fait transfiguré dans ce qu'il est. Donc là, le phénomène de transfiguration est un phénomène très 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 particulier, c'est un changement dans les formes, mais qui sert, essayez de vous rappeler de ça, qui sert justement à manifester l'identité d'une personne ou l'essence d'une réalité. Donc c'est loin d'être un changement dans l'essence et c'est loin d'être un changement dans l'identité, au contraire, c'est l'apparition de cela. Par exemple, dans le phénomène le plus extraordinaire que nous connaissions et que nous connaissons très régulièrement, c'est le phénomène de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le Christ dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est-à-dire qu'il désigne les offrandes pour ce qu'elles sont. Il en atteste l'identité, la nature, et après ça, l'Esprit Saint, à la prière de l'Église, descend et en fait transfigure ses dons. Alors on traduit, bon, c'est plus ou moins facile à traduire, on va dire, ce passage-là, et alors on l'en traduit par les transformants, je crois. Alors, transformer, tout le monde en croit que les dons changent de nature, mais ça, c'est pas du tout la conception orthodoxe. Transformer veut dire ici transfigurer, c'est des métamorphoses des dons, si vous voulez, mais ils ne sont pas changés en autre chose que ce qu'ils sont. Écoutez-moi bien, ils sont changés dans ce qu'ils sont. Parce que le Christ n'a pas dit « Ceci va devenir mon corps, ceci va devenir mon sang ». Il n'a pas parlé d'une action de mutation ontologique, si vous me passez l'expression. Il a désigné, il a parlé au présent, il a dit « Ceci est ». Mais pour voir les offrandes, les voir telles qu'elles sont, et voir en elles ce qu'elles sont, les voir conformes à ce que le Christ vient de dire qu'elles sont, il faut la venue du Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint est celui justement qui transfigure, c'est-à-dire qui transforme la réalité dans ce qu'elle est, qui la métamorphose pour la faire apparaître telle qu'elle est. Exactement, ça fait penser au poème de Mallarmé, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui aiment la littérature française, mais Stéphane Mallarmé a écrit un très beau texte qui est un hommage rendu au poète, au très grand poète américain Edgar Allan Poe, et ça s'appelle « Le tombeau ». Si je ne me trompe pas, le tombeau d'Edgar Poe, et il a ce verset « Tel qu'en éternité lui-même se change ». Je ne me trompe pas sur la citation, mais donc il y a l'idée que la poésie est en fait justement un phénomène de transfiguration, et qu'elle fait apparaître les êtres tels qu'ils sont, elle les change en fait en eux-mêmes. Et donc ça, c'est un phénomène de transfiguration qui se fait par la liturgie. On va dire que l'action liturgique est principalement une action de transfiguration. Mais elle n'est pas que cela. Là, il y a deux autres formes d'action. Il y a une autre forme d'action qui est différente, qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification consiste dans l'imprégnation des offrandes par les énergies divines, ce qu'on appelle par ailleurs la grâce, ou la grâce incréée. Par exemple, quand le Christ s'est immergé dans le Jourdain, il a, comme dit le tropaire de la fête, il a sanctifié les eaux du Jourdain, c'est-à-dire qu'il les a imprégnées, infusées de la grâce divine dont il était porteur. Ou bien lui-même, en se faisant homme, il a évidemment sanctifié la nature humaine, il l'a sanctifiée, c'est-à-dire qu'il l'a rendue sainte. Il l'a rendue sainte, on sanctifié a pour synonyme déifié. Donc la sanctification, c'est une déification, puisque Dieu seul est saint, mais Dieu est saint par nature, alors que les personnes ou les offrandes sanctifiées le son par participation et par l'action du Saint-Esprit, l'action du Verbe. Donc ça, ça fait même de sanctification. C'est-à-dire, on pourrait dire que la sanctification, c'est une assimilation à Dieu. Mais je ne suis pas très content de cette expression, parce que assimilation veut dire qu'il devient semblable à. Or, dans la communion eucharistique, pour reprendre cet exemple-là, la communion ne devient pas semblable à. Elle devient divine. C'est bien Dieu que nous consommons, c'est bien Dieu dont nous nous désaltérons quand nous communions. Donc la sanctification, c'est beaucoup plus qu'une assimilation. C'est une identification sans confusion. C'est une identification parce qu'en fait, l'union se fait selon les énergies divines, simplement. Elle ne se fait pas selon la nature. Vous voyez, il n'y a pas de confusion entre le créé et l'incréé. Cette distinction subsiste. Mais selon les énergies, la déification est réelle, la sanctification est réelle. Ça c'est le phénomène de sanctification. La sanctification est une déification d'une personne ou d'une offrande. D'une offrande, le pain et le vin qui sont apportés à l'autel, ils sont sanctifiés dans le sens où ils sont déifiés, ils deviennent la chair de Dieu et sang de Dieu. Ça c'est incontestable. Et puis il y a encore avant ça un autre phénomène différent qui correspond à un autre mot qui est le terme de consécration. Alors consécration, ça veut dire rendre sacré. C'est tout à fait autre chose. J'en profite pour le dire ça parce que je lis dans certains ouvrages, dans plusieurs ouvrages d'ailleurs, souvent traduits d'une autre langue. Et donc c'est peut-être la traduction qui est fragile. Bon, c'est vrai que c'est pas très facile de traduire. Il faut quand même le reconnaître, mais quelquefois je vois des confusions entre sacré et sainteté, entre consécration et sanctification. Ce que je vous dis, ce n'est pas la même chose. En hébreu, j'ai expliqué ça une autre année, donc je renvoie à mes cours antérieurs, je ne vais pas tout refaire tout le temps. En hébreu, il y a deux mots différents. Alors qu'est-ce que ça veut dire consacré? Consacré, c'est ce qui ne sert que à un usage. J'avais pris cet exemple-là. Par exemple, chez vous, à la maison, il y a une éponge qui ne sert que à, essuyer la table. Hein. Donc, on ne se servira pas de cette éponge pour laver par terre, ou pour essuyer les chaussures, ou pour faire les carreaux. Hein. Et si quelqu'un le dit, on dit, mais non, touche pas à cette éponge, ça, c'est l'éponge qui sert à laver la table. Et donc, ça, l'idée de consécration, c'est-à-dire qu'on attribue, mettons, un objet, on lui attribue une fonction exclusive. Mais c'est vrai pour les personnes, par exemple. Les baptisés que vous êtes, que nous sommes, les baptisés sont des personnes consacrées. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent que à Dieu. Et vous allez me dire que dans la pratique, ce n'est pas toujours ce qu'on voit, parce qu'on a l'impression que nous, les chrétiens, nous appartenons un petit peu à tout le monde, suivant ce que ça nous arrange, un petit peu à l'Église, un peu au monde, un petit peu... Enfin, mais ça veut dire que simplement que nous sommes des chrétiens en devenir. C'est ça qu'il faut peut-être admettre. Mais objectivement, le baptême est un phénomène de consécration, c'est-à-dire d'attribution à un être humain d'une fonction, d'une responsabilité, d'une dignité, d'un service, d'une qualité, d'un honneur aussi, exclusif. La personne consacrée appartient exclusivement à celui ou à celle auquel ou à laquelle il est ou elle est consacrée. C'est l'exemple du mariage, par exemple. C'est l'exemple du baptême, je viens de le dire, on peut y revenir si ça vous intéresse un jour. C'est l'exemple du mariage, le cas du mariage est typique, hein. C'est que dans le mariage, chaque époux est consacré l'un à l'autre, de façon exclusive. Dans le baptême, nous sommes tous consacrés au Christ de façon exclusive, nous n'avons pas d'autre Dieu que Dieu, nous n'avons pas d'autre Dieu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça doit être clair, nous ne devrions pas avoir d'autre Dieu, nous ne devrions pas avoir des idoles, nous ne devrions pas... nous sommes des personnes consacrées et les époux sont consacrés l'un à l'autre. La prêtrise C'est encore un sacrement qui se manifeste par la consécration. Le garçon qui est ordonné diacre ou prêtre ou évêque, il est consacré à ça. Il ne sert que à cette fonction-là. Vous voyez, ça ne veut pas dire que les prêtres n'ont pas le droit de passer l'aspirateur dans leurs églises ou de faire la vaisselle après l'agape. Ce n'est pas ça que je voulais dire exactement. Dieu m'en garde. Mais cela veut dire que tout de même, il y a dans la vie, dans l'existence humaine d'un diacre ou d'un prêtre, des formes d'organisation de l'existence au quotidien qui révèlent cette consécration et ce caractère exclusif. Vous voyez, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Hein. Donc, l'idée de consécration. Et donc, il en est de même. On va retrouver ces attributs-là, si vous voulez, dans la liturgie elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par consécration? Oui, la consécration, c'est lié à l'idée de sacré. Ce qu'on appelle sacré, ce sont des personnes, des lieux ou des objets consacrés. Et la consécration a un aspect que j'avais oublié de dire, qui est très, très spectaculairement la mise à part. Que ce soit un objet comme cette fameuse éponge dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sert qu'à laver la table, elle est mise à un certain endroit, je vous assure qu'on ne la mélange pas avec les autres, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes, et l'éponge qui sert à laver la table, elle est mise à un endroit particulier pour qu'on soit sûr de ne pas être confondu. Donc il y a une mise à part des objets, par exemple un espace est l'objet d'une consécration, il y a une mise à part, cet espace est défini, est souligné, dans l'espace lui-même il y a des lieux encore plus consacrés, il y a le saint, il y a le saint des saints, l'autel également est consacré, il est mis à part du reste, dans le peuple de Dieu, les baptisés qui sont des consacrés sont mis à part, il y a une mise à part, l'immersion consiste, on dit, à mourir au péché, etc., mais c'est une mise à part par cette mort symbolique, hein, et la résurrection dans le Christ. Donc dans la consécration, il y a effectivement rendre sacré, c'est-à-dire séparer. Il faudrait vérifier l'étymologie, mais il me semble bien que les mots qui désignent le sacré dans les différentes langues justement appartiennent à un champ sémantique de la séparation. Consacré ou sacré, c'est ce qui est mis à part. Ça se voit par exemple dans la préparation des dons pour la liturgie. Il y a toute la préparation du pain par la personne qui l'a fait chez elle, avec la farine qui est choisie, tous les éléments. Mais après ça, le prêtre, quand il prépare l'offrande, il découpe dans ce pain rond, il découpe un cube qu'on va appeler l'agneau. Eh bien, et justement, ça c'est tout à fait un phénomène de consécration. Il consacre ce cube et il le sort, il le met à part hein, en disant les paroles qui correspondent, qui sont très intéressantes, qui se rapportent à la mise à part. Je vais les relire, elles sont dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, elles sont très intéressantes. Voilà. Se servant de la lance comme d'un levier, le prêtre détache l'agneau du reste de la prosphore en disant: il est retranché, sa vie a été retranchée de la terre. Et donc c'est très clair. Mais cette mise à part, donc ça c'est un phénomène de consécration. Consécration. Et oui, consacrer c'est mettre à part, sanctifier c'est déifier, et transfigurer c'est faire apparaître ce que les choses sont ou ce que les personnes sont. Alors ces trois concepts, si vous voulez, qui sont des concepts religieux, métaphysiques, je ne sais pas comment vous les appelez, mais ce sont des concepts liturgiques. Hein, concepts liturgiques. Regardez comme une icône nous montre ces aspects-là. Il y a une consécration de l'espace dans un carré long, un espèce de rectangle, un carré allongé, disons, quelquefois un vrai carré, relativement rare, mais voilà une consécration de l'espace. Ce qui va servir pour ça ne servira qu'à ça, etc. Et ensuite, elle est sanctifiée par son contenu même, par la vérité qu'elle exprime, par le fait qu'elle exprime aussi l'amour que Dieu a pour les hommes, par la douceur que les fidèles vont ressentir. Ils vont être pénétrés des énergies divines qui traversent cette icône, la grâce qui traverse cette icône, bien sûr. Et puis, cette icône elle-même est une transfiguration parce qu'elle fait apparaître un pan de réalité qui était ordinaire, mais qui une fois mis à part et sanctifié apparaît dans toute la merveille de ce qu'il est. En fait, finalement, consécration et sanctification aboutissent à la transfiguration, parce qu'au fond, le but de tout cela, le but de la liturgie, le but des rites, c'est en fait de révéler la merveille de ce qui est. Oui, c'est la consécration, la sanctification, la transfiguration, ce n'est pas ajouter à la nature quelque chose qu'elle n'aurait pas. Ce n'est pas attribuer une part de réalité supplémentaire ou artificielle ou optionnelle. Non, pas du tout. Le phénomène sacramentel qui est porté par l'Église, ce n'est jamais surajouté. C'est révéler ce que les choses sont, ou c'est nous donner la grâce de voir ce qu'elles sont. C'est ouvrir nos yeux ou sanctifier nos yeux pour voir ce qui est saint. C'est Saint Grégoire Palamas qui dit ça. Saint Grégoire Palamas dit que dans la transfiguration, il y a d'abord une métamorphose du regard, et que c'est la métamorphose du regard qui permet à l'être humain, de ses yeux de chair transfigurée, de contempler la réalité elle-même transfigurée, mais en fait de voir ce qui est. Regardez, nous avons eu dimanche dernier l'évangile de l'aveugle de Jéricho. Et bon, qu'est-ce que ce passage de la cécité à la vision? Bon, bien sûr, il y a le plan tout à fait historique, matériel et réel et physique du miracle, que c'est pas moi qui vais le nier, bien entendu, mais après ça, il y a là aussi la profondeur symbolique et théologique de ce récit. En fait, l'être humain accède à la vision parce que Dieu lui donne des yeux pour la voir. Dieu est partout présent, mais nous ne le voyons pas. Il faut que Dieu nous donne des yeux pour le voir là où il est, vous voyez. Donc ce sont ces phénomènes-là. Et alors, en ce qui concerne la musique, on va avoir un peu le même phénomène. Est-ce que je peux vous relire le passage? Un passage qui est très beau, mais au fond, je présente ici un très beau texte que je vais vous lire après de Maxime Kowalewski. Il explique qu'en fait, la musique, d'abord, la musique liturgique, obéit déjà à un phénomène de consécration, c'est-à-dire qu'on met à part, on sélectionne des modes musicaux, hein, qui sont les 8 tons. Musicaux, 8 tons byzantins, 8 tons slaves, 8 tons grégoriens, hein, j'ai déjà parlé de ça. Donc il y a une sélection de certains modes, certaines modalités, certaines tonalités musicales. Ensuite, il y a une sélection de certaines formules musicales montantes ou descendantes, une sélection de certains ornements, certaines arabesques, certaines vocalises qui sont sélectionnées. Donc ce phénomène de sélection de la matière musicale, hein, ou des moyens musicaux, du matériel musical, ce phénomène de sélection est un phénomène de consécration. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que on a par exemple la distinction entre musique liturgique et musique mettons musique populaire. À la limite, on pourrait dire musique sacrée et musique profane. Musique sacrée, c'est effectivement une musique qui est consacrée, c'est-à-dire dont les formules ne servent qu'à cela, et la musique profane, sans aucune connotation péjorative, serait simplement une musique qui n'a pas subi ce phénomène de sélection. Mais là, il y aurait encore beaucoup à dire, parce que si nous considérons par exemple, la musique populaire, là où elle s'est maintenue, par exemple en Roumanie ou dans certains autres pays d'Europe ou en Afrique, en Inde également, là partout où il y a une musique traditionnelle, populaire traditionnelle, on va dire une musique non liturgique, on s'aperçoit que cette musique a un caractère sacré, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée, si vous voulez, elle est composée avec des moyens musicaux présélectionnés, traditionnellement passé de génération en génération. Donc en fait, le phénomène de consécration, de sacralisation, de mise à part, de choix, en fait, de choix, préside à l'activité artistique. Dès qu'on fait même un dessin, un tableau, une photographie, c'est un phénomène de consécration, parce qu'on limite un espace, on choisit un espace, on choisit un angle de vue, On choisit une lumière, on choisit une exposition, tout est choix dans l'art. Donc finalement, le phénomène de consécration, on le trouve dans d'autres registres. Vous voyez, il n'appartient pas que à la vie liturgique. Ça, je pense que c'est important de le dire, parce que ne serait-ce que pour démolir un petit peu cette opposition entre sacré et profane, qui n'est quand même pas très juste. L'idée de sacré et profane, si vous voulez, c'est plutôt quelque chose qui appartient à l'Antiquité, quand on soulignait très, très férocement les deux domaines. Mais la venue du Christ dans le monde révèle, en fait, que les phénomènes de sacralisation sont multiples, se trouvent à toutes sortes de degrés. Ils ne sont pas exclusivement liturgiques. Enfin, dans la liturgie, c'est vrai que ce phénomène est plus fort. Et puis, le phénomène de sanctification se voit dans la musique également, parce que le chant liturgique, étant associé à la parole, c'est-à-dire au Christ lui-même, d'une manière ou d'une autre, des parcelles du Christ, si on a une vision eucharistique de la liturgie, on va pouvoir comprendre assez facilement quand même que le moindre verset psalmique utilisé dans la liturgie, c'est une parcelle de l'Eucharistie. C'est un morceau de la parole, c'est une parcelle de la parole à laquelle on communie par l'ouïe, par l'audition. Or, cette communion à la parole, ou à une parcelle de la parole, je pense à l'exemple d'un verset psalmique, cette communion se fait par la médiation du chant, par le chant, grâce au chant. C'est le chant qui conduit la parole à être consommé par notre cœur, à être absorbé, assimilé, mangé déjà, vous voyez, ou bu. C'est ça qui fait c'est ça qui ouvre la bouche de notre cœur, en quelque sorte, pour prendre cette parole de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est vraiment la musique qui le conduit. Or, en faisant cela, la mélodie qui conduit un fragment, un morceau, une parcelle de la parole de Dieu, cette mélodie, elle est pas seulement consacrée à cela, mais elle est sanctifiée, elle est déifiée par le même phénomène. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est imprégnée des énergies divines qui sont dans la parole. C'est quelque chose qui est très, 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 très beau, et ça explique aussi l'efficacité, l'efficience, l'éloquence, la crédibilité aussi des formules musicales liturgiques. Elles ne nous touchent pas parce qu'elles sont émotionnellement percutantes, mais elles nous touchent parce qu'elles sont tellement imprégnées de la parole qu'elles portent, qu'elles en sont elles-mêmes sanctifiées et elles sont porteuses de la grâce, vous voyez. Les paroles qui sont utilisées dans la liturgie, surtout les paroles de l'Évangile, la façon dont l'Évangile est lu, ça fait extrêmement attention aussi à la façon dont on lit les textes, et bien ces paroles sont sanctifiées, les paroles de la musique qui porte la parole est sanctifiée par la parole. La parole sanctifie la musique qui la porte, voilà. J'ai réussi à m'exprimer. Et finalement, donc, la musique joue un rôle de transfiguration. La musique, c'était le chant, parce que le chant contribue à exprimer le sens profond, c'est-à-dire à révéler l'essence même de la parole prononcée. Et la musique le fait en grande partie en utilisant les accents de la langue. Ça, on va pouvoir y revenir, parce que évidemment parler de la musique liturgique, c'est un sujet absolument immense, mais je peux vous dire déjà, que vous le savez, que les mélodies utilisées dans la liturgie, en principe, c'est très, tout à fait vrai, en tout cas pour la langue grecque, ça utilise les accents de la langue qui est parlée, en l'occurrence, elle les magnifie, elle fait sortir des mots tout leur sens. Et je pourrais donner des exemples, peut-être c'est pas toujours facile de le faire, mais après on peut donner des exemples de cela. Par exemple, en grec, les tropaires, vous savez que les tropaires commencent souvent par aujourd'hui aujourd'hui le roi céleste, aujourd'hui la mère de Dieu, aujourd'hui c'est le commencement du salut. C'est-à-dire beaucoup de frappères commencent par le mot aujourd'hui, parce que effectivement la liturgie est l'actualisation au présent de l'histoire du salut. Or ce mot aujourd'hui, qui est simeron en grec, eh bien, il est accentué sur la première syllabe, simeron, mais ce simeron, donc pour l'accentuer encore plus, engendre des mélodies appropriées dans le chant byzantin. Mais en même temps, ces mélodies appropriées, elles font ressortir justement toute la puissance de ce mot-là, qui est un mot absolument clé, puisque c'est le mot aujourd'hui, c'est le mot simeron, qui donne tout le sens du temps liturgique, cette espèce de métatemps dans lequel nous entrons à ce moment-là. Donc vous voyez, les trois aspects, ce sera de près, hein, consécration, sanctification et transfiguration, on doit les retrouver normalement pour ce qui est de la musique liturgique. Alors, Maxime Kowalewski commande aussi beaucoup mieux que moi, évidemment, mais vous allez voir, on retrouve un petit peu ça. J'ai trouvé des textes vraiment très intéressants dans ce livre qui s'appelle toujours Retrouver, que je vous ai cité, Retrouver la source oubliée, un livre difficile à trouver maintenant, je pense, malheureusement. Et il y a tout un chapitre qui s'appelle Place de la musique dans la liturgie selon les règles ecclésiastiques, c'est-à-dire suivant ce qu'on appelle les canons. Ce qui veut dire déjà, rien que le titre est intéressant, c'est-à-dire que la place de la musique dans la liturgie, dans la vie liturgique, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quelle place, ce n'est pas n'importe quelle musique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a absolument, quand je dis n'importe quoi, c'est vulgaire, je veux dire qu'il n'y a rien d'arbitraire, il n'y a rien de capricieux, il n'y a rien d'une subjectivité égoïste, si vous voulez, qui peut présider à la place de la musique. Enfin, c'est ça qu'il faut, en fait, surveiller, je dirais, un petit peu tout le temps, également, ne pas laisser s'introduire dans la célébration liturgique des éléments capricieux, arbitraires, d'une subjectivité trop individualiste. De même que dans l'icône aussi, on doit faire extrêmement attention de ne pas laisser se déformer l'icône par des éléments, je dirais, oui, arbitraires. Donc, voilà, cette place de la musique, ce n'est pas donc n'importe quoi. Alors, voilà ce qu'il écrit. Dans la liturgie telle qu'elle a été conçue et structurée par les pères du 4e au 10e siècle, et telle qu'elle reste encore assez fidèlement consignée dans les livres liturgiques actuels, l'élément musical est omniprésent. Alors déjà, la première remarque, dans cette phrase, il y a plusieurs remarques très, très importantes. On dit que la liturgie a été conçue et structurée, donc c'est-à-dire que les offices que nous avons, je ne parle pas seulement de la liturgie eucharistique, mais c'est peut-être même les offices des petites heures, on en a parlé, je crois, l'année dernière, d'ailleurs, tous ces offices ont une histoire, et ils ne sont pas liés à une mode, ils ne sont pas liés là non plus à un caprice, mais ils sont liés à une genèse, en quelque sorte, il y a au fond une genèse liturgique, on préfère de la génétique liturgique, si vous voulez, cette genèse étant généralement, assez simplement, le prolongement d'une pratique liturgique juive, synagogale ou liée à la liturgie familiale en milieu de diaspora. Mais donc, la liturgie donc, a été conçue et structurée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, avec une certaine conscience, une certaine connaissance, une réflexion, avec une certaine intention aussi, ont mis en place la liturgie telle que nous la connaissons. D'où le respect que nous avons pour elle. Et ces personnes ne sont pas non plus des personnes indifférentes. Il s'agit des pères du 4e au 10e siècle, ce qui paraît relativement tard. Et donc je pense qu'ici, Maxime veut dire que les éléments liturgiques ont été en quelque sorte mis au point dans cette période de temps, du 4e au 10e siècle. Ça fait quand même une période assez longue, mais nous savons parfaitement qu'avant le 4e siècle, des hymnes liturgiques existaient. Avant le 4e siècle, les gens se réunissaient. Mais ce qui a été mis au point au 4e siècle, c'était à l'époque des grands conciles. C'était une fixation, en quelque sorte, une canonisation, si vous voulez, des usages liturgiques qui existaient, qui étaient tous issus Alors là, vraiment tous issus, on peut pas en douter, tous issus du culte qui avait lieu à Jérusalem. Ça, donc on sait que l'église de Jérusalem est vraiment l'église mère et que tout ce qui s'est développé dans le christianisme s'est développé à partir du patrimoine donné à Jérusalem et donc est donné à Jérusalem avant le 4e siècle. Et après ça, effectivement, il y a une consolidation, une fixation, pas une sclérose, si vous voulez, mais quand même, disons qu'il y a eu des phénomènes de mise à l'écrit, par exemple. Quand on parle on dit la divine liturgie selon saint Jean Chrysostome, je ne pense pas qu'il faille dire la liturgie de saint Jean Chrysostome, ni de saint Basile d'ailleurs, vous voyez. On dit selon, c'est-à-dire mis sous le patronage d'un grand saint, on a fixé à une certaine époque un certain canon liturgique à partir d'usages qui existaient, qui étaient à peu près cohérents dans la plupart des communautés de telle région, vous voyez. On sait très bien, je vous l'avais dit l'année dernière, je crois, les usages qu'on appelle byzantins maintenant, en fait, sont d'origine palestinienne. Beaucoup d'usages viennent du monastère de Saint-Sabas en Palestine. Donc on connaît à peu près l'origine quand même des formes liturgiques, mais ils ont été fixés, canonisés et diffusés à l'intérieur de l'Empire dans la, comment dire, sous l'influence, disons, de ce qu'on appelle la Grande Église, sous l'influence de l'église de Constantinople. Donc il s'agit plutôt d'une fixation, et puis on dit entre 4e et 10e siècle, parce qu'en fait cette fixation n'a pas été définitive, il y a des phénomènes d'évolution qui sont liés en grande partie à l'œuvre des conciles œcuméniques. C'est très intéressant, si vous voulez, il y a des parties de la liturgie, si vous voulez, qui ont été enrichies, enfin, je parle de l'importance donnée à l'hymne de la Mère de Dieu, il est digne en vérité de te célébrer, toi véritablement la Mère de Dieu, etc. C'est vraiment l'irruption dans le champ liturgique de la pensée du Concile d'Éphèse. Et donc ça, c'est très intéressant, on voit que la liturgie s'est fixée, mais elle a continué à s'enrichir des apports conciliaires. On doit pouvoir montrer ça de manière assez... Ben les savants liturgistes, si vous voulez, sont capables de vous dire à quelle époque, à quelle date, on a commencé à dire telle ou telle prière. C'est généralement lié à la conscience conciliaire. Voilà. Bon, et puis, donc, Maxime dit, ben ça, telle qu'elle reste encore assez fidèlement consignée dans les livres liturgiques actuels, et qu'il apporte une nuance importante. Il veut dire par là, vous l'entendez bien, que finalement ce patrimoine s'est maintenu approximativement, parce qu'il peut y avoir des phénomènes d'appauvrissement, des choses qui sont oubliées, les usages qui se sont perdus. On peut toujours donner comme exemple la façon dont le psautier est géré dans la vie liturgique de notre Église. Il y a toujours une différence extraordinaire entre ce qui est prévu par le typicon et la pratique dans les paroisses ou même dans les monastères. Alors, je prends comme exemple les vêpres du samedi soir, qui sont les premières vêpres du dimanche. Vous savez très bien, vous devriez le savoir, même si ce cours est un cours que de premier niveau, même en premier niveau, vous devez pouvoir savoir qu'il y a un catéchisme entier, qui est le catéchisme numéro 1, qui comporte trois stances et qui devrait être lu à ces vêpres. Or, dans la pratique, on lit simplement le premier psaume, « Bienheureux l'homme », et encore, généralement, on le chante, et quelquefois, on ne va même pas jusqu'au bout de ce psaume. Donc, par exemple, ça, la disparition, le mépris du psautier dans les offices de l'Église orthodoxe, ça, c'est tout à fait un phénomène c'est quand même un phénomène d'appauvrissement, je sais pas ce qu'on peut en penser quand même. Et donc c'est un peu ça qu'on veut dire, quand on dit que ça s'est à peu près maintenu, et que cette tradition liturgique est réelle, mais bon, avec quand même des endroits où ça s'est tout de même appauvri, ça vaudrait la peine même quelquefois de restaurer une pratique qui est prévue par les livres liturgiques, hein. Alors, quand c'est consigné dans les livres liturgiques, ce qu'on appelle le typicon, j'en parle dans le cours qui est suivant, mais quelquefois, ce n'est pas consigné, ce sont des traditions qui sont de caractère oral et qui ont pu aussi être négligées. Donc, tout ceci est fragile. La tradition, c'est quand même une réalité extrêmement fragile. La tradition, ça veut dire transmission, mais tout le monde sait que c'est très, très, très difficile de transmettre une information, même un objet, même un livre, même des choses. c'est extrêmement difficile de transmettre une réalité sans qu'elle soit blessée par les aléas du transport, on va dire. Bon. Alors voilà, donc, en tout cas pour lui, l'élément musical est omniprésent. Ça c'est très assez important parce que c'est un principe. C'est un principe. Cela veut dire que, comment dire, avoir une activité liturgique dans laquelle il n'y aurait pas un minimum musical, ce serait sortir de la tradition. Quel est le minimum musical? C'est ce qu'on appelle le recto tono. C'est-à-dire, au moins dire un texte sur une note de récitation. Si on ne va pas dire « Mon âme bénit le Seigneur », on va dire « Mon âme bénit le Seigneur ». Oui, bon, on peut faire au moins ça, au moins un recto tono. Et ça, c'est déjà musical. Pourquoi est-ce que c'est musical? Parce que déjà, ça chante, hein, tout de même. Dès que vous êtes sur une note de récitation, dès que vous êtes sur un recto tono, vous chantez. Incontestablement, le souffle commence à se mettre dans les mots. On commence à entendre les mots différemment. Il y a la musicalisation, si vous voulez dire, la musicalisation du mot se fait. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que la musique n'est pas, la musique n'est pas dans la liturgie une décoration, un ornement. Voyez, de même que l'icône n'est pas quelque chose pour faire joli dans les églises, occuper les fidèles qui s'ennuient pendant les offices. Ou pour, c'est pas non plus un livre pour les pauvres gens qui ne savent pas lire, vous voyez, comme ça a été dit quelquefois. L'icône est partie intrinsèque du message évangélique. Et de même, la musique est partie intrinsèque du message porté par la parole. Et ça, je disais, c'est intéressant, parce que le même Mallarmé, même Stéphane Mallarmé, donc l'auteur du tombeau d'Edgar Poe, que je citais tout à l'heure, il avait écrit un jour quelque chose, il avait dit « Défense de déposer de la musique au bas de mes vers ». Donc cette parole était très intéressante, parce que ça veut dire qu'il lui répugnait profondément que l'on chante ses poèmes. Il considérait que ses poèmes étaient musicaux par eux-mêmes, que les sonnets qu'il avait écrits comportaient leur propre musicalité, donc n'avaient pas besoin d'adjuvant musical. Et l'expression « déposer de la musique au bas de mes vers », c'est un terme extrêmement méprisant, c'est-à-dire que toute musique qu'on pouvait apporter à ses poèmes serait très inférieure aux poèmes eux-mêmes. Enfin, vous voyez, donc, Mallarmé se faisait de la place de la musique par rapport à sa poésie, il se faisait une idée très négative. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve dans l'idée de musicalisation. On va mettre en musique les poèmes de Mallarmé, mettre en musique les poèmes de Baudelaire. Ça a été fait beaucoup, ça, au XIXe siècle. On a chanté, un certain Reynaldo Hahn a chanté les poèmes de Baudelaire, en particulier l'invitation au voyage, Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, d'aller là-bas vivre ensemble. Alors, c'est un des superbes textes, chantés donc avec la musique de Reynaldo Hahn, ce qu'on appelle la musicalisation de la poésie. C'est-à-dire qu'on, dans ce cas-là, on apporte une sorte d'ornement à un texte poétique, un ornement musical, et puis éventuellement cet ornement pourrait être remplacé par un autre, parce qu'un jour ça peut être Reynaldo Hahn, un autre jour ça peut être Gabriel Fauré, ça peut être plusieurs personnes, si vous voulez, qui se consacrent comme ça à mettre en musique les poèmes d'un tel. Je pense que dans la liturgie, il ne s'agit pas de ça du tout. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit d'un phénomène pas très particulier que la parole de Dieu engendre par son propre sens, par sa propre puissance. Elle engendre une musique. Je pense que la parole de Dieu est musicale par elle-même, exactement comme les poèmes de Stéphane Mallarmé. Elle n'a pas besoin d'un ornement musical. Mais le phénomène qui se passe, c'est qu'elle produit. Elle produit un type de beauté. Elle produit un véhicule de sensibilité, elle produit un mode émotionnel, hein, qui lui permet en tant que parole de toucher le cœur de l'homme et de passer par-dessus les protections conceptuelles, les défenses conceptuelles de l'esprit critique, de l'esprit sceptique, de celui qui n'y croit pas ou qui y croit qu'à moitié. Vous voyez, d'une certaine façon, la musique, la mélodie musicale est ce que la parole de Dieu trouve pour rejoindre l'homme dans son cœur profond. Donc il s'agit en aucun cas d'une décoration, d'un adjuvant esthétique, apporter à la parole. Mais cela dit, il faut se rappeler tout de même d'un précepte des anciens qui est très... dont Maxime Kovalevski ne parle pas, mais que je vous cite ici, qui est quand même très intéressant. Il s'agit de Saint-Germain de Paris, l'auteur présumé, puisque ceci est contesté par des écrits récents d'ailleurs, l'auteur présumé des fameuses lettres, est donc écrite à l'époque mérovingienne sur la liturgie de l'église gallo-romaine de l'époque, de la Bourgogne de l'époque, si vous voulez, puisque Saint-Germain de Paris était originaire de la région d'Autun. Eh bien, Saint-Germain de Paris, ou l'auteur des lettres en question, dit nettement à un endroit que à l'époque, alors où c'est l'époque, comme disent les enfants, et dans les temps anciens, on ne chantait pas, on lisait, tout était dit, non pas de manière triviale, mais sur une note, recto tono. En fait, la récitation des textes de façon monologique, oui, ça monodique, c'est-à-dire sur une seule note, ce serait ça la forme la plus ancienne. Et que dans les monastères en particulier, et donc les paroles étaient prononcées. Donc ça veut dire qu'elles étaient toujours prononcées de manière musicale, si vous voulez, mais que cette musicalité était une musicalité sans ornement, pratiquement sans ornement. Et ça, et qu'il dit que, effectivement, c'est après. Plus tard, quand les églises se sont remplies de beaucoup de monde, qu'on a eu tendance à développer les formes musicales pour être plus éloquent, pour que la parole puisse être transmise avec plus d'éloquence. Je pense que c'est vrai pour certaines formules liturgiques qu'on n'entend pas. Vous savez, quand dans une église, quand il y a 400, 500 personnes, peut-être plus, si vous n'avez pas pour prononcer la parole une certaine puissance, ben la parole ne passe pas. L'époque ancienne, on n'avait quand même pas de micro, on n'avait pas de sono, on n'avait pas tout cet attirail-là. Donc déjà, les églises étaient construites de façon à ce que, dans un certain endroit de l'église, de l'édifice, de l'architecture, à un certain endroit, si on prononçait une parole, on était sûr qu'elle irait jusqu'au bout. Mais les architectes construisaient les églises pour ça. Les églises étaient construites comme des conques de transmission de la parole. Mais en plus, donc, on utilisait ces formules liturgique qui avait, je pense, aussi le rôle de transmission auditive, un rôle acoustique, pas seulement un rôle de persuasion et d'édification, mais un rôle purement acoustique. Ça c'est très 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 net. Du coup, à notre époque, maintenant, quand nous avons des sonos et des haut-parleurs, etc., il faut faire extrêmement attention quand on chante dans un micro, par exemple. Quand on utilise ces formules liturgiques anciennes, faire attention de la façon dont on s'y prend, parce que ça peut devenir beaucoup trop fort, beaucoup assourdissant. Je dois dire, j'ai moi-même l'expérience de ça. Récemment, j'ai participé à la Divine Liturgie à l'étranger, dans un pays que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas être désagréable, et dans une liturgie orthodoxe, mais où les chantres étaient des chantres byzantins tout à fait compétents, très bons. Mais alors, tout ce qu'ils ont fait pendant la célébration liturgique a été, hyper sonorisé par des micros et des haut-parleurs, etc. Et ça, je crois que c'est vraiment une erreur liturgique. C'est qu'à un moment, ça devient anti-liturgique, parce que les mélodies utilisées ont déjà comme fonction la transmission de la parole. Donc si on ajoute à ça une sono, ça fait vraiment beaucoup, à moins qu'on sache gérer ces choses-là avec discernement. Ah, donc, toujours est-il qu'il y a quand même une certaine histoire de la musicalité dans l'Église. Et en même temps, Maxime insiste sur le fait que cette musicalité, l'élément musical, comme il dit, est omniprésent. Que ce soit le recto tono à l'époque ancienne, si Saint-Germain de Paris a raison, ou que ce soit, alors plus récemment, l'apparition de mélodies développées à partir de ce recto tono, de toute façon, il y a quand même une histoire, il y a une construction, il y a une créativité, il y a des zones aussi où les mélodies sont développées différemment. J'ai cité récemment l'exemple des Byzantins roumains, par exemple, c'est un cas très intéressant de mutation des mutations musicales dans la tradition liturgique, ou la même mélodie byzantine étant au service d'une langue accentuée un petit peu différemment, donne des résultats différents aussi. Le même chant byzantin est utilisé sur la langue française, ça va donner quelque chose de différent. Donc il y a des, comme si des phénomènes de mutation, des mutations musicales, des mutations de la musique liturgique, suivant les pays, suivant les époques, suivant le fait qu'on dise ou pas les prières à haute voix. Enfin, il y a beaucoup de paramètres, si vous voulez, qui entrent en jeu pour cela. Alors, ce qu'explique Maxime, c'est qu'en fait, toute parole destinée à parvenir à l'oreille du participant doit être chantée ou cantilée, c'est-à-dire supportée par des sons contrôlés de durée et de hauteur déterminée. Alors, c'est extrêmement intéressant. Hein. Donc, vous voyez, toute parole destinée à parvenir à l'oreille du participant doit être chantée ou cantilée. Maxime Kobalevski emploie beaucoup ce terme de cantillation, hein, qui est un terme plus général. Ça inclut le chant, mais ça admet, si vous voulez, des formes à la limite du recto tono. Le recto tono est quand même reste encore une forme de cantilène, puisque c'est pratiquement pas mélodique du tout, mais ce n'est quand même pas du langage parlé, c'est pas le langage avec lequel on lit un roman ou le journal qu'on a trouvé sur les sièges du métro en venant. Vous voyez, la cantillation, c'est déjà, moi je pense que ce qui est important, c'est le fait qu'on introduit dans la parole un souffle et qu'on introduit dans les mots une forme de résonance acoustique, même, si vous voulez, une résonance que les mots sont heureux de trouver, comme si les mots, c'est un petit peu, si vous voulez, comme ces fleurs japonaises qu'on achète toutes sèches dans des petits sachets. Elles sont toutes plates, toutes moches, on va dire, et si on les met dans l'eau, elles se déploient, elles se développent, elles deviennent absolument ravissantes. Je pense que beaucoup de paroles qui nous viennent, des paroles du Christ, même des paroles dans l'Évangile, peuvent être à la première lecture un petit peu sèches, un peu desséchées, un peu plates, hein. Mais quand elles sont cantillées et donc liturgiquement lues, ou même à la maison, on peut, si je peux dire, s'amuser à le faire, quand elles sont cantillées, elles prennent tout leur volume, elles prennent leur beauté, elles résonnent de manière extraordinaire, elles sont belles à entendre et elles nous touchent quelquefois jusqu'aux larmes, hein, vous voyez. Donc la cantillation, c'est vraiment l'introduction dans une parole qui a été transmise comme ça, un petit peu protégée, disons. C'est introduire en elle le souffle de la vie, le souffle et le son qu'il a fait vraiment, qu'il apporte. Hein. D'une certaine façon, on pourrait dire que l'élément musical, comme dit Maxime Kowalewski, l'élément musical dans la liturgie, c'est vraiment le porte-voix du Verbe. C'est là justement qu'on voit que l'être humain est le porte-voix du Verbe, le porte-voix de Dieu. Et que nous ne parlons pas à la place de Dieu, nous sommes les porte-voix de Dieu. Mais à condition, bien sûr, de le faire avec beaucoup de conscience. Peut-être qu'il faut apprendre ces choses-là, ben bon. Alors donc il dit bien. Alors c'est vrai, sauf la seule exception à cela, c'est le mélie. Le mélie dans la Divine Liturgie qui est obligatoire suivant les cinq canons, c'est-à-dire qui est le commentaire de la parole de Dieu, elle n'est jamais cantillée ni chantée. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être remarqué le contraire, vous avez peut-être dans vos paroisses des prêtres qui chantent le mélie, ça pourrait être original, mais j'avoue, je n'ai jamais entendu une chose pareille, disons. Je sais pourquoi. Parce que l'homélie est de caractère didactique. Vous voyez ? Alors que la liturgie n'est pas de caractère didactique, elle est de caractère mystagogique. Le seul élément didactique, c'est l'homélie. Il n'y a que dans l'homélie qu'on apporte un commentaire, qu'on apporte une réflexion, qu'on apporte des développements, des interprétations, des comparaisons, enfin toutes sortes de phénomènes qui sont quand même propres à l'esprit réflexif. Et c'est dans l'homélie que la réflexion humaine est admise à s'exercer pour expliciter le donné de la parole. Donc c'est très 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 particulier. Si on parle un jour de l'homélie et de l'homilétique, il faudra penser à dire cela. Et pourquoi la première caractéristique qui nous permet d'identifier le mélie, c'est que c'est la seule parole prononcée dans l'Église qui n'est pas chantée. Et on peut la prendre de cette façon-là. C'est extrêmement intéressant. Et alors, je m'abuse quelques mots qui sont très intéressants. Il dit que les mots, les paroles hein, sont supportées par des sons contrôlés. Supportées, c'est-à-dire portées par en dessous. On ne peut pas supporter dans le sens où ce serait des paroles difficiles à entendre, voire insupportables. Vous voyez, mais supportées, soutenues, comme on dit en anglais, to support en anglais, ça veut dire soutenues. On parle des supporters, des grands sportifs, par exemple, des gens qui les soutiennent. Donc la parole est soutenue par des sons. C'est ça le rôle de la musique. La musique, c'est pas de décorer, pas de distraire, c'est pas de faire passer le temps dans un concert musical qui nous permet de patienter. Hein. C'est pas pour que nous prenions notre mal liturgique en patience, hein, si je peux dire. Hein. Mais c'est la musicalité supporte. Alors il dit, qu'est-ce qui supporte la parole? Là, c'est très précis ce qu'il dit. Il dit des sons. Intéressant, il dit des sons. Il dit pas encore des mélodies, il dit pas encore des sons. Alors des sons, quels sons? Et des sons contrôlés, des sons de durée et de hauteur déterminés. Donc ça aussi, vous voyez, des sons qui n'ont aucun caractère arbitraire ou capricieux, ils sont contrôlés. Et alors, contrôlés par quoi? On va y venir. Ils sont contrôlés par la tradition, parce que par l'expérience et par la finalité qui est la leur. Leur finalité étant de supporter la parole, ils ne doivent pas envahir, ils ne doivent pas recouvrir la parole. Ils ne doivent pas recouvrir, cacher la parole. Vous voyez, l'exemple qu'on a dans certaines de nos églises d'une musicalité, je dirais, indiscrète, c'est-à-dire un développement de l'harmonisation, du contrepoint, qui fait que la parole disparaît. La parole devient inintelligible sous un amoncellement de formes musicales fort belles par ailleurs. Ça, ce sont des exemples évidemment qui sont à étudier de près, parce qu'ils correspondent probablement à ce qu'il ne faut pas faire. Ils correspondent probablement à une forme de déviation loin de l'esprit liturgique. Bon, c'est pas facile de dire ça parce que ça peut paraître désagréable, mais il faut voir quel est le but. Si le but de la liturgie c'est le service de la parole, ben, si je constate que la parole est enfouie sous un amoncellement de formes liturgiques et que je ne peux plus avoir accès à cette parole, je suis bien obligé de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est contraire au but. Hein, et ça me fait penser à je crois que c'est justement l'aveugle de Jéricho, il mendiait dans son coin et il entend le Christ passer, mais entre le Christ et lui, il y a une foule de gens, il est obligé de traverser cette foule pour aller jusqu'au Christ. Et nous, c'est quelquefois notre cas, on est obligé de faire un effort extraordinaire pour entendre un peu les mots de la parole de Dieu, tellement ils sont recouverts par, je dirais pas du bruit en l'occurrence, mais par une musicalité indiscrète, hein, et qui s'apparente plus à l'esthétisme qu'à l'esprit liturgique. Bon, alors ça, c'est vrai que Maxime a beaucoup insisté là-dessus, j'ai certainement fait des critiques, peut-être pas des ennemis, mais des critiques parmi ses amis eux-mêmes. C'est vrai, quand on voit les festivals de musique liturgique qui ont lieu chaque année dans les grandes villes, alors on va écouter, on dit, ben, la musique liturgique, en fait, ce que vous voulez, c'est des concerts, on va aller à des concerts de chants, super beaux, russes, grecs, romains, tout ce que vous voulez, mais on est au concert, oui, au concert. Et d'ailleurs, ça peut penser également que ces mêmes concerts, quand ils sont donnés dans les églises, contribuent aussi à un certain malentendu, puisque au fond, la musique liturgique, elle est faite au service de la parole, elle n'est pas faite pour être la matière d'une démonstration esthétique. Bon, enfin, pas trop critique non plus tout le temps, enfin, attention, mais tout de même, sans être critique dans le sens négatif, avoir quand même un petit peu l'esprit critique, c'est-à-dire un peu le discernement, et pas penser que tout va de soi liturgiquement, que tout est bien, que tout va bien, c'est pas vrai. On peut améliorer, on peut célébrer mieux, on peut chanter mieux, on peut utiliser des formules liturgiques plus traditionnelles, on peut balayer un petit peu, on peut dépoussiérer un petit peu les formes musicales qui sont employées dans nos églises, et on peut chercher la vraie beauté de Dieu. Vous savez, cette très belle prière qui est dite à la fin de la liturgie, selon saint Jean Chrysostome, justement, que dit le prêtre, « Bénis ceux qui aiment la beauté de ta maison », je ne sais plus où c'est, je voulais la relire, parce que c'est quand même très caractéristique, ça définit quand même bien l'esprit liturgique, hein. La prière de Lambon. Prière de Lambon. « Seigneur, toi qui bénis ceux qui te bénissent, garde l'ensemble de ton Église. » Alors, « garde l'ensemble de ton Église et sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. » Ça, c'est quand même intéressant. Il y a une certaine beauté de la maison de Dieu qui n'est pas n'importe quelle beauté, qui n'est pas l'esthétique du monde. Qui est pas... Qu'est-ce que c'est que cette beauté de la maison de Dieu et si... Ça vaut la peine de réfléchir à ça, si vous voulez, parce qu'on peut faire aussi, nous le faisons dans notre métropole chaque année, depuis plusieurs années, un festival de la beauté, mais je pense qu'on va, arriver un jour, on aura le temps de s'interroger sur la nature même de la beauté, du beau, et de, sans être disqualifiant, si vous voulez, mais arriver à sélectionner qu'est-ce qui est véritablement la beauté de la maison de Dieu. Bon, alors, ce véhicule, c'est-à-dire ce son contrôlé de durée et de hauteur déterminée, c'est quand même intéressant, c'est très très précis, hein. Ce véhicule privilégié de la parole peut être un seul ton de récitation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Saint-Germain de Paris. Le ton de récitation, c'est le recto tono, hein. Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Voilà. Ça qu'on appelle un ton de récitation. Qu'est-ce que c'est comme note? Parce que j'ai employé là, c'est assez bas, je pense que c'est en dessous d'un fa, c'est probablement un mi. Alors, le ton de récitation, c'est souvent plutôt plus proche du fa, et dans le meilleur des cas, ça peut être la hauteur approximative, parce qu'on n'est pas dans la gamme bien tempérée non plus, approximativement un la, c'est-à-dire quand même une note médiane qui n'est pas trop, qui ne demande pas une crispation de la voix pour être prononcée. Mais c'est ça le ton de récitation, vous voyez. Alors soit un seul ton de récitation ou une succession plus complexe de sons. Qu'est-ce qu'il appelle une succession plus complexe de sons? Bah, c'est la construction d'une mélodie. Oui. Alléluia, par exemple, bah, il y a plusieurs sons qui se succèdent. On peut dire Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu, ce qui est le ton de récitation. Et on peut dire Alléluia, Alléluia, qui est à ce moment-là donc une succession construite de sons, une succession plus complexe. Mais vous voyez, ce qui est très important, c'est ce qu'il dit sur le fait que les sons ont une hauteur déterminée. Alors ça va se trouver justement dans les fameux huit tons. Byzantin, slave ou grégorien, c'est que l'écart, ce qu'on appelle l'écart entre deux notes, ne sera jamais excessif. Il doit toujours rester dans une certaine mesure, justement pour ne pas donner prise à un lyrisme excessif. Malheureusement, ça se trouve quelquefois, mais attends, on va en parler aussi de la place du lyrisme dans le chant liturgique. C'est quelque chose d'extrêmement extrêmement précis, extrêmement intéressant. Dans l'ensemble, on évite quand même des écarts trop grands. Alors l'essentiel est que, continue Maxime, l'essentiel est que ce véhicule soit traditionnel. Alors ça, c'est un mot que les gens n'aiment pas forcément, mais ça veut dire quand même quelque chose. Traditionnel, c'est tout ce qui se rapporte à une expérience. Si on considère qu'on n'apprend pas par les livres, mais qu'on apprend par l'expérience, on va comprendre pourquoi l'Église orthodoxe se construit comme elle se construit. Elle se construit par l'expérience. On peut ne voir aucun livre, mais si on va dans les monastères, si on va dans les paroisses de notre Église, on apprend par expérience et on bénéficie de l'expérience des anciens. Donc ce véhicule soit traditionnel. Donc, vous allez voir ce qu'il veut dire par traditionnel, qu'il possède un caractère de pérennité tel que les fidèles le perçoivent spontanément comme faisant partie de leur patrimoine atavique. Alors, c'est une expression extraordinaire, ça. Ça me paraît vraiment très, très difficile à argumenter, ça. Je crois que c'est vrai dans les pays qui ont conservé quand même une certaine tradition populaire. Je prends l'exemple de la Roumanie, l'exemple de la Russie, l'exemple de beaucoup, la Grèce aussi, beaucoup de pays orthodoxes, si vous voulez, où la tradition populaire existe quand même encore. Donc ça veut dire que la personne va reconnaître à l'oreille des mélodies, qu'est-ce qu'il dit ? Des mélodies faisant partie de son patrimoine atavique. Mais par exemple ici, en Europe occidentale, en France, il y a une telle Il y a quand même une pollution sonore importante, hein. Il y a une inflation sonore importante. Notre oreille a été modifiée aussi par l'usage continuel des instruments de musique, souvent des instruments de musique assez puissants, assez forts, assez violents. L'usage maintenant de des sonorisations, on arrive à augmenter, dans les discothèques en particulier, on arrive à augmenter le son d'une manière agressive, enfin assourdissante, hein. Ça, ce sont des phénomènes qui, je pense, quand même modifient l'oreille. Donc, je ne suis pas sûr. Ça, c'est strictement mon opinion. Je ne me permettrai pas de la donner pour autre chose. Je ne suis pas sûr que ce que dit Maxime Kolevski soit très encourageant pour nous qui vivons en Europe occidentale. Qu'est-ce qui reste, hein? Qu'est-ce qui peut rester dans la sensibilité auditive d'un petit Français? Qu'est-ce qui peut rester comme perception de son patrimoine musical atavique? J'avoue, je ne sais pas trop. Ça se rapporte quand même directement, alors ça pourrait quand même en parler à un moment ou à un autre, ça se rapporte tout de même à l'engagement pris par Maxime Kowalewski d'utiliser les mélodies occidentales, les mélodies latines, grégoriennes, ce qu'il pensait, à tort ou à raison, il pensait que le français moyen, comme vous et moi, disons, allions nous trouver chez nous, dans l'Église orthodoxe, à partir du moment où les mélodies qui seraient prononcées seraient des mélodies qui seraient un peu les mélodies de notre enfance, des mélodies que nous aurions entendues dans les églises de nos campagnes, enfin quelque chose dans lequel nous reconnaîtrions justement notre patrimoine atavique. C'est pour ça que Maxime, avec d'autres personnes, pas seul, principalement lui, a travaillé à établir des partitions de la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome, d'ailleurs aussi, mais surtout de la liturgie selon Saint-Germain de Paris, la liturgie occidentale. Il a travaillé à mettre au point des formules liturgiques d'origine occidentale, principalement pour donc, cette raison-là, pour une raison missionnaire. Et c'est vrai que ça a quand même fonctionné. Beaucoup d'Occidentaux, dans les années 70, c'était plus vrai maintenant, hein, mais dans les années 70, beaucoup d'Occidentaux en France, en particulier, sont entrés dans l'Église orthodoxe, là où les paroisses utilisaient ces mélodies occidentales, parce qu'ils s'y retrouvaient, vous voyez. Ils s'y retrouvaient en langue française, et ils retrouvaient des structures mélodiques qu'ils avaient pu entendre étant enfants dans leurs églises. Donc c'était des Français venant de l'Église catholique, hein, alors on peut accuser bien sûr ces communautés orthodoxes occidentales, on peut les accuser de prosélytisme, si vous voulez, mais en fait c'est pas le cas, puisque les fidèles qui s'approchaient de ces communautés étaient souvent des fidèles tout à fait en marge de leur Église de baptême, donc des fidèles en recherche, comme on dit, quelquefois des chrétiens aux abois, qui retrouvaient un lien avec le christianisme grâce à ces communautés. Mais l'idée de Maxime Kowalewski était quand même celle-là. Utiliser des mélodies occidentales traditionnelles pour que les occidentaux puissent, dans l'Église orthodoxe, se trouver chez eux. On va y revenir, je crois que c'est très important, mais que ce n'est pas... Je pense que ce n'est pas si simple. Pas si simple, et en tout cas, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes quand nous avons des communautés avec des fidèles d'origine différente. Quand vous avez dans la même paroisse des personnes d'origine géorgienne, roumaine, française et slave, quelle mélodie employer pour qu'elle soit ressentie comme faisant partie du patrimoine atavique? Franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Ça devient un problème pastoral, ça devient un problème... voilà, il faut réfléchir. Mais je pense qu'il faut réfléchir à partir des idées de Maxime Kowalewski. C'est lui qui nous donne pour notre époque, si vous voulez, les éléments de réflexion les plus intéressants, je trouve, sur ce qui est la liturgie et la musique liturgique. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là-dessus pour ce premier cours, bien que j'avance très très lentement, évidemment, je vous demande pardon, mais et aborder le deuxième cours, je ne sais pas Voilà, donc le deuxième cours que j'aborde sans faire tellement de transition, parce que je vois qu'il est déjà 9h15, donc c'est un cours qui m'intéresse beaucoup, je m'en pardonne, en fait je fais surtout des cours sur ce qui m'intéresse, Bon, c'est, je ne sais pas si c'est un très bon exemple, mais peut-être qu'on parle quand même mieux de ce qui est passionnant. Bon. Et donc, la question du typical, moi, m'intéresse beaucoup, 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 parce que c'est une préoccupation permanente dans les paroisses, dans nos églises. C'est une préoccupation liée aussi à la question de la panorthodoxie, c'est-à-dire la possibilité pour tous les orthodoxes de célébrer ensemble, d'avoir des usages liturgiques cohérents, donc à la construction de l'église orthodoxe, par exemple en France, construire une église qui soit l'église pour tous, ça veut dire que on trouve quand même un minimum ou un maximum de cohérence dans la façon de célébrer. Alors, je dis souvent que c'est expérience douloureuse que je fais quelquefois, qui consiste à aller dans une paroisse orthodoxe et à pas pouvoir célébrer pratiquement, tellement les usages sont différents. Ça m'est arrivé à Noël, par exemple, j'ai été invité à participer à la célébration de Noël dans une église qui suivait le calendrier julien. Et bon, pourquoi pas, j'étais très content de glorifier une deuxième fois la nativité glorieuse du Christ, c'est pas ça le problème. Mais le problème a été que les prêtres là-bas m'ont demandé de présider parce que ça leur permettait de confesser les personnes ou de faire la proscomédie, enfin, ça leur rendait service. Et moi, au bout de quelques minutes, j'ai été en butte à des usages que je ne connaissais pas. Donc il y avait des différences dans le typikon, des différences trop importante pour que la célébration soit harmonieuse et facile. Alors à ce moment-là, il vaut mieux effectivement ne pas présider, se mettre en deuxième ou en troisième prêtre, et puis dire qu'on suit les usages de la paroisse, ou du diocèse, ou de l'église en question. Mais donc, moi je serais pour, non pas si vous voulez, une uniformisation, parce que c'est toujours un peu pénible, tout ce qui est uniforme est un petit peu lassant, mais quand même, qu'il y ait une cohérence, qu'on puisse se mettre d'accord avant de célébrer. Et donc, je crois que le typikon sert à cela, sert à favoriser une certaine cohérence, une certaine unanimité, une certaine bonne entente entre les célébrants. Je trouve que c'est important, mais ce n'est pas une contrainte. C'est ça que j'ai déjà dit plusieurs fois. Le typikon n'est pas une espèce de règlement militaire obligatoire, ce sont des indications très très souples et qu'on suit par obéissance spirituelle, par amour les uns pour les autres, par amour de l'Église, par amour de la communauté. C'est quelque chose qui nourrit en fait l'amour fraternel. Alors, je suis très pour qu'on suive le typical. Voilà. Bon. Donc j'étais en train, la dernière fois quand l'heure a sonné, j'étais sur la présentation de ce qui est nécessaire à la célébration. Ça paraît des questions dérisoires, des concernant les objets et tout, mais j'avais quand même commencé à expliquer un petit peu. J'ai parlé de ce qu'on appelle l'antimis ou l'antimension. J'ai expliqué ce que c'était, donc c'est assez important, c'est un caractère extrêmement important, avec un caractère à la fois liturgique et canonique, hein, puisque je vous rappelle que ce que j'ai dit, c'est que l'antimension porte la signature de l'évêque diocésain, ça signifie donc que ce que le prêtre fait dans l'Église, il le fait au nom de l'évêque. Et donc s'il n'a pas ça, il ne célèbre pas la divine liturgie. Voilà, c'est tout. Je le redis, c'est très important, que dans la célébration de la divine liturgie, par deux fois, les prêtres embrassent, on les voit embrasser l'autel. Non, ils n'embrassent pas l'autel, ils embrassent la signature de l'évêque sur l'antimension. C'est-à-dire qu'ils demandent, c'est comme s'ils demandaient la bénédiction, comme s'ils embrassaient la main de l'évêque s'il était présent, vous voyez. Ils expriment leur obéissance spirituelle à celui qui est leur père spirituel, en vérité, qui est leur archevêque ou leur métropolite. Ensuite, j'avais parlé des vêtements. Je ne crois pas que ça vaille la peine d'y revenir. J'ai peut-être dit quand même que ce qu'on appelle le sticharion pour le diacre, c'est en fait l'aube. Hein, donc on l'appelle, c'est l'aube ou c'est la dalmatique, mais il y a un peu une différence quand même. La dalmatique, c'est un vêtement qui s'est passé par exemple dans le vêtement occidental. La dalmatique se porte par-dessus l'aube, ce qui signifie bien que en fait, ce sont deux vêtements différents. Mais dans le visage byzantin, donc qui est quand même général dans l'Église orthodoxe actuelle, ce qu'on appelle le sticharion, c'est la dalmatique, mais c'est la dalmatique qui prend la place de l'aube. En réalité, c'est l'aube, c'est-à-dire le vêtement baptismal premier, celui que le prêtre porte sous ses vêtements, celui que l'évêque porte sous ses vêtements. C'est-à-dire que et le diacre, et l'évêque, et le prêtre portent le vêtement baptismal pour signifier qu'ils sont les représentants, les serviteurs et les guides justement du peuple baptismal. Mais bon, je ne reviens pas trop là-dessus, je crois que j'en ai quand même parlé. Ensuite, dans le même typicum, on fait l'énumération des objets liturgiques, nécessaires. Je ne sais pas si le mot nécessaire est très très juste, puisqu'on est dans la vie spirituelle. Je pense que la vie spirituelle n'est pas gouvernée par la nécessité. C'est plutôt la liberté. On va dire quels sont les objets dont nous avons la liberté de nous servir, on va dire, à ce moment-là, ou des objets quand même utiles. Alors, ce qu'on appelle les vases sacrés. On revient à la notion de sacré dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a quand même des je sais pas le mot objet, on va dire. On est piégé par les mots. Le mot objet n'est pas un très beau mot. Enfin, on va dire de la vaisselle, mais c'est pas très beau non plus. Bon, bref, des objets qui sont sacrés, c'est-à-dire qui sont consacrés, qui ne servent qu'à ça. Le calice, par exemple, ne peut pas servir à quoi que ce soit d'autre qu'à porter le sang du Christ. Ça, c'est un exemple typique de consécration. Oui, de consécration, oui. Alors, en aucun cas, on ne peut y mettre autre chose, un autre liquide, et même quand on rince le calice après la célébration, on le rince avec l'eau qui est préparée là, qui est une eau pure, et on y rajoute du vin, qui est du vin qui ne sert qu'à ça également, pas du vin consacré si vous voulez, mais pas qui est du vin de messe. Enfin, on essaie de laver le calice qu'avec des éléments qui concourent directement à la célébration. Donc, alors qu'est-ce que sont ces vases sacrés, ou cette vaisselle sacrée, ou ces objets sacrés? Donc c'est ce qu'on appelle le disque, ou ce qu'on appelle en d'autres langages la patène. Hein, il y a deux mots. Je crois qu'il faut aussi s'habituer là maintenant dans le typicum, qu'on soit roumain ou qu'on soit français, pour que nous nous habituions les uns et les autres à employer quand même les différents mots. C'est comme pour les vêtements liturgiques. On dit épitrachyle, on dit étole. C'est le même objet. On dit phélonion, on dit chasuble, mais c'est le même vêtement. On dit sticharion et on dit aube, mais c'est le même vêtement également. Vous voyez, il faut quand même s'habituer à être un petit peu bilingue, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on oblige ni les Grecs et les Roumains à dire étole, ni qu'on oblige les Français à dire épitrachyle. Ils ne sont pas plus orthodoxes parce qu'ils ont dit épitrachyle, vous comprenez bien. Mais il y a une tradition aussi du vocabulaire qui est quand même intéressante. Le mot étole, c'est un mot latin, ça vient de stoli, et ça veut dire en fait une écharpe. Donc c'est un beau mot. Et épitrachyle, c'est ce qui se porte sur le cou. Donc ça désigne l'endroit où cette écharpe est portée. Bon, là on parle des vases sacrés, donc le disque ou patène. Ensuite le calice. Ensuite, on doit trouver, alors c'est assez important, on trouve toujours dans le calice une éponge. Alors, pourquoi? Alors, bien sûr, on va trouver un sens symbolique à cette éponge. C'est l'éponge qui a été donnée au Christ remplie de vinaigre quand il est cité sur la croix. Je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est parce qu'il y a aussi dans le calice cette éponge qui sert à essuyer, pas à nettoyer, parce que le calice n'est quand même pas sale. Mais enfin, si vous voulez, à le rincer, à l'essuyer, à le faire briller, à prendre soin de ce calice, et cette éponge ne sert qu'à cela, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'elle reste dans le calice, une fois que le calice est bien essuyé, et on l'enlève bien entendu au moment de la célébration, de façon à ce que l'éponge ne soit pas dans le calice quand celui-ci est rempli. Ça arrive, il y a des accidents qui arrivent, des accidents liturgiques. On préfère aussi dans le typicon un cours spécial sur les accidents liturgiques, ça peut être assez intéressant d'ailleurs. Parce qu'il n'y a rien à faire, une série à faire, il y a tout ce qui peut arriver, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon. Bon, la peine de mort étant interdite en France, on ne fusillera pas les diacres qui font tomber des saints dons pendant la liturgie, mais enfin, on leur dira peut-être quelque chose quand même. Voilà, donc, ce qu'on appelle la cuillère, alors qu'est-ce que la cuillère? C'est un objet qui a effectivement la forme d'une cuillère, on l'appelle la pince également. Pourquoi? Parce que cette cuillère ou cette pince est assimilée à l'objet dont parle le prophète Isaïe, quand il dit qu'un ange est venu et porteur d'un charbon pour lui purifier les lèvres. Et cet ange portait le charbon avec justement une pince en or. Donc cette cuillère liturgique peut porter le nom de pince pour rappeler ce sens symbolique et aussi montrer tout le caractère redoutable de la communion eucharistique, puisque cette cuillère, qui ne sert qu'à cela également, c'est pas n'importe quelle petite cuillère qu'on va remettre dans le tiroir avec les autres après, s'il vous plaît, mais une cuillère qui ne sert qu'à cela, cette cuillère, donc, porte le corps et le sang du Christ, qui sont encore plus redoutables que le charbon que le prophète a vu poser sur ses lèvres. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit trouver absolument? Eh bien, ce qu'on appelle l'étoile. L'étoile, on dit quelquefois l'astérisque et non pas astérix, s'il vous plaît, ne mélangeons pas les genres. L'astérisque est donc une étoile qui a aussi, comme tous les objets liturgiques, elle a un usage concret. Il ne faut pas avoir peur de ça, vous savez, il ne faut pas avoir peur de dire que l'éponge qui est dans le calice sert à essuyer le calice avant d'être l'éponge donné au Christ sur la croix, dire que ben oui, les objets liturgiques ont aussi une fonction matérielle, c'est pas gênant, c'est pas un péché de dire ça. Et donc l'étoile a un rôle pratique, c'est que c'est une étoile dont les quatre tiges sont recourbées de façon à pouvoir être posée. Elle est posée à plat comme une épée de griffe au-dessus des dons, mais sans les toucher. Donc c'est un usage pratique évident, c'est-à-dire que ça permet après ça de mettre les voiles de calice sur cette étoile sans que les voiles frottent ou écrasent ou réduisent en miettes éventuellement l'agneau qui aura été préparé. Donc cette étoile qui est mise sur les dons, une fois qu'ils ont été découpés, est extrêmement utile, vraiment. Alors cela dit, c'est quand même l'étoile, on dit, que l'étoile, vous savez, c'est la fameuse étoile qui reposa près de la grotte, qui désigna la grotte où était né le Sauveur, donc bien entendu, je peux aussi vous relire les prières qui sont dites à ce moment-là, quand on pose l'étoile. Voilà, l'étoile vint et s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, dans cette citation de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, les objets liturgiques qui servent à la préparation des dons, en l'occurrence, ils sont assimilés aussi à certains événements du salut. Alors, je dirais aussi qu'il y a, alors ce n'est pas dit dans le typicon que j'ai sous les yeux, mais je suis quand même là pour expliquer les choses, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, c'est qu'il y a aussi un symbolisme profond dans les objets qui sont là. Tous les objets qu'on a associent le cercle et le carré. Ça c'est un symbolisme, je sais pas, universel. Vous pouvez étudier un grand livre des symboles quelque part, vous allez retrouver ça, vous verrez que partout où il y a des constructions traditionnelles, que ce soit en Chine, en Inde, en Afrique, où vous voulez, ce qui sert dans le domaine religieux, combine ces deux formes, le cercle et le carré. Pourquoi ? Parce que l'intuition religieuse de l'être humain est profonde, l'être humain a compris de l'origine que la religion, ça sert à unir le ciel et la terre. Donc, nos églises, par exemple, les églises les plus simples, si vous voulez, je ne parle pas du style basilique, qui est un style dérivé des constructions civiles de l'époque romaine, mais une vraie église, si vous voulez, bon, eh bien c'est un cercle, c'est le cercle de la coupole, l'hémisphère d'ailleurs de la coupole, mais enfin bon, un cercle, et qui est posé sur un cube ou un carré, des formes angulaires, donc ça exprime en soi l'union du ciel et de la terre. Et bien là, c'est pareil, la patène ou le disque est de forme circulaire, et l'étoile qu'on y pose introduit la forme carrée, c'est-à-dire l'idée de manifestation, de réalisation, de concrétisation, d'incarnation, de venue sur la terre. Vous voyez, donc tout le symbolisme de la ce qu'on appelle la proscomédie, sur laquelle on va revenir certainement, tout le symbolisme de la proscomédie justement exprime cette combinaison, cette association, cette union sans confusion du terrestre et du céleste. Donc cette étoile a un sens un rôle très intéressant. Il faut savoir que dans la tradition occidentale, si on arrive à parler de tout, dans la tradition occidentale, ce n'est pas tellement l'étoile qui est employée, mais une espèce de cloche. La liturgie gallo-romaine, si je ne me trompe pas, on peut toujours vérifier, personne ne va pas, je ne suis pas infaillible en tout cas, les autres le sont peut-être, mais je ne le suis pas, j'essaie quand même à vérifier, mais il me semble bien que dans la liturgie gauloise, on employait, pour protéger l'agneau qui avait été préparé, on employait une espèce de cloche qui signifiait la grotte. Vous voyez, et de toute façon, la proscomédie se rapporte au mystère de la grotte. C'est pour ça qu'elle est faite dans la prothèse de manière discrète et non pas devant tout le monde, comme un usage moderniste voudrait. Vous savez, dans certaines paroisses, maintenant, on commence à faire la proscomédie au milieu de l'église pour que tout le monde la voie. C'est très gentil, mais ça part plus d'une vision sentimentale des choses qu'une vraie perception théologique de ce qui s'y passe. En fait, la grotte, c'est la grotte. La grotte est cachée, je n'y peux rien. Voilà. Alors, donc, l'étoile et finalement, ce qu'on appelle les voiles de calice. C'est-à-dire, en roumain, c'est acoperomintele, c'est-à-dire ce qui recouvre. Parce qu'acopera, en roumain, ça veut dire recouvre. Donc, ce qui sert à recouvrir les dons. Alors, qu'est-ce qui sert à recouvrir les dons? Ce sont trois voiles. Un voile qui est sur le calice, un voile qui est sur la patène par-dessus, donc, l'étoile qui a été mise, et un troisième voile qu'on appelle le grand voile, qui est mis au-dessus des deux. Donc, en fait, il y a effectivement trois voiles. Quelquefois, selon les usages, un des petits voiles est en forme de croix. Là, c'est celui qu'on met sur le calice. Et l'autre voile, qui est de forme carrée, est mis sur la patène. Mais dans beaucoup d'autres usages, dans l'église grecque, par exemple, les deux petits voiles ont la même forme, ils sont tous les deux de forme crucifère. Et donc, ce sont comme des croix, des tissus découpés en forme de croix que l'on place par-dessus le calice et par-dessus la patène. Toujours est-il que ces objets liturgiques sont nécessaires, je ne sais pas, mais ils sont indispensables. Ils sont indispensables et pour orner, à quoi est-ce qu'ils servent au fond? Ils servent à orner les dons qui sont quand même le salut du monde. Je pense que ça n'échappe à personne parmi vous. Non, donc il s'agit d'orner ce qu'il y a de plus précieux. Donc on va orner, parer avec des vêtements précieux, des vêtements lumineux, des vêtements de couleur, des vêtements. Ce qu'il y a de plus beau au monde, on va le mettre pour parer cette offrande absolument extraordinaire qui est l'offrande du corps et du sang du Christ. Mais pas seulement parer, également protéger de la chute, protéger de la poussière qui tomberait, ou protéger d'un insecte. Vous voyez, de toute façon, tout est fait tout est fait au service. Comme vous avez un petit enfant, vous lui mettez des vêtements, vous lui mettez des habits pour pas qu'il prenne froid, pour pas qu'il se blesse. C'est pareil, si vous voulez, on met autour de l'offrande absolument insondable qui est préparée, on met tout ce qui peut la protéger, l'orner et l'honorer. C'est très beau. Là aussi, c'est absolument naturel. Rien dans nos rites n'est artificiel. Je ne sais pas, ça coule de source. Je suis sûr, moi, on ne m'aurait pas appris ces choses-là. Je pense que je les aurais trouvées tout seul. Il m'aurait été absolument naturel de mettre les plus beaux vêtements pour célébrer Dieu. Il m'aurait été absolument naturel d'entourer l'offrande avec ce que j'aurais trouvé de plus beau, le plus festif. Je ne sais pas, ça. Comme disait un ouvrier qui était venu à la maison, ça coule de source. Je pense que la liturgie coule de source. Et que c'est pour ça que c'est rien du tout d'expliquer, parce que c'est tellement évident, tellement évident. Encore faut-il, apparemment, expliquer tout de même ces choses-là de temps en temps, parce qu'on se rend compte que dans la pratique, dans certaines paroisses en particulier, les personnes sont un petit peu débordées par les rites et n'arrivent pas toujours à les faire de manière. Avec assez d'aisance, assez de naturel. Enfin, je me rends compte qu'il y a des endroits où ça ne paraît pas naturel. Moi, ça me paraît naturel, mais apparemment, dans des endroits où le rite est quelque chose de surajouté à l'homme. Moi, je pense pas. Bon, je ne sais pas, on ne va pas se comparer. On a peut-être des tempéraments différents. Je crois aussi que ça dépend aussi des milieux. Je vois certains de mes collègues roumains, ils sont ordonnés le samedi, le dimanche. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. C'est extraordinaire. Alors que dans d'autres endroits, les garçons qu'on ordonne, il leur faut des mois pour apprendre Donc il y a quand même quelque part une espèce de sens liturgique, un instinct, une sensibilité, une grâce aussi peut-être de ressentir les choses de façon absolument naturelle. Je ne sais pas, ce sont des points de suspension. Voilà, donc ça c'est les fameux vases et leur parure. Alors il faut savoir aussi, ce que ne dit pas typiquement ici, mais donc je l'ajoute, que les vêtements liturgiques eux-mêmes et les parements de... les parements des vases liturgiques, je cherche le mot, bon, peuvent varier dans leur couleur. Et donc, au moins de manière globale, c'est-à-dire, par exemple, là, on a célébré Noël, on a célébré la Théophanie, on a célébré Pâques. Pour ces trois fêtes-là, eh bien, s'il vous plaît, on va essayer de mettre du blanc sur l'autel. Les prêtres vont être habillés de blanc et les parements des offrandes, les tissus liturgiques, bon, vont également être blancs. Vous voyez, et donc, c'est-à-dire qu'on va solenniser des mystères qui sont des mystères de théophanie, des mystères de lumière. Bon, maintenant, à l'inverse, c'est vrai que on peut mettre des parements sombres, par exemple pour la liturgie des présanctifiés, dont on a parlé les autres fois. Les présanctifiés, on utilise, tout le monde le sait très bien, des vêtements, des tissus sombres. Ils ne doivent pas être noirs pour autant. Il faut peut-être signaler en passant que l'utilisation de la couleur noire n'est pas juste dans l'Église. Il n'y a pas de noir, par exemple, en iconographie. Parce que, tout simplement, pourquoi ? Bonne question, bonne réponse aussi, parce que le noir n'est pas une couleur. C'est extrêmement simple. Non il n'y a pas de noir, ni dans l'icône, ni dans les vêtements liturgiques, parce que dans l'Église, il n'y a que les couleurs et de la lumière. Bon, et en plus, parce que l'élément de deuil est toujours tempéré dans l'Église orthodoxe. Nous ne sommes pas dans une Église issue de la... comment dire, du dolorisme médiéval occidental. Nous sommes dans l'Église orthodoxe, c'est quand même assez différent. Et dans l'Église orthodoxe, si vous voulez, la victoire de la résurrection est toujours actuelle, y compris le Vendredi Saint, par exemple. Et donc, les vêtements sombres qui sont mis pendant le carême, en fait, ne sont pas si sombres que ça. Il s'agit des vêtements pourpres. Et ce sont des couleurs, un violet soutenu, un violet sombre, si vous voulez, mais un violet qui se rapporte à la pourpre royale portée par le Christ. Alors qu'on a fait porter au Christ quand il était au prétoire, on lui a fait porter par dérision pour se moquer de lui. Donc c'est vrai que cette couleur rappelle l'humiliation subie par le Christ, mais en même temps, si vous me permettez d'insister un peu là-dessus, cette couleur pourpre, elle rappelle la royauté véritable du Christ. Donc il s'agit bien, donc en fait, ça veut dire que tout le temps du carême, tout le temps de carême pascal est un temps, si vous voulez, qui est dominé par le thème de la royauté du Christ, thème qui triomphe très évidemment le dimanche des Rameaux, mais qui est présent tout le temps. Et donc finalement, ce vêtement pourpre sombre est un vêtement qui annonce la royauté du Christ. C'est la pourpre royale. Oui. Mais donc, en tout cas, ça fait une différence, évidemment, une différence très importante. Les églises sont quand même beaucoup plus sombres, moins éclairées. Enfin, il y a tout de même une alternance. Bon, et puis entre ça, il y a d'autres couleurs qui sont plus ou moins prescrites. Dans certaines églises, ceci est très canoniquement précisé. Chez nous, dans notre église roumaine, le Saint-Synode a donné des directives, il y a des décisions du Saint-Synode, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, assez précises concernant l'usage des vêtements liturgiques et des couleurs liturgiques, en simplifiant beaucoup, en ramenant l'usage des couleurs liturgiques aux couleurs claires et aux couleurs sombres, à peu près. Bon. Maintenant, c'est vrai, quand on est plusieurs à célébrer, plusieurs prêtres, plusieurs diacres, on essaie d'avoir des couleurs appropriées pour que ça fasse quand même une espèce d'ensemble et qu'on ait bien la conscience qu'il y a une unité du sacerdoce, une unité du presbytérium et une unité du Christ lui-même. Donc on fait quand même très attention, s'il y a trop de couleurs panachées, c'est vrai que ça crée un espèce de désordre. Il faut que la liturgie, si vous voulez, ait un caractère iconographique. La liturgie, c'est toujours comme une icône en mouvement, c'est une icône cinétique, la liturgie. C'est très intéressant. C'est de la, je dirais pas que c'est de la ciné liturgie, mais en fait, il y a un caractère cinétique. C'est-à-dire que l'icône, au lieu d'être, je dirais pas statique, ce serait une erreur, mais on va dire immobile, posée, arrêtée, en position, en quelque sorte, sur le bois ou sur les murs, dans les fresques, eh bien, quand il s'agit de l'action liturgique, cette même icône, elle est en mouvement, elle est animée, elle se déplace, d'une façon chorégraphique, en quelque sorte. Ça ferait retrouver aussi le sens chorégraphique des déplacements liturgiques, des gestes liturgiques. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas se gratter la tête, de ne pas se tirer sur la barbe, de ne pas s'essuyer les yeux tout le temps, de ne pas frotter ses lunettes. Oui, enfin bon, il faut faire un petit peu attention pour quand on est, disons, investi du ministère presbytéral, épiscopal ou diaconal, faire très très attention à cela, qu'on est quand même dans une position iconographique, iconologique, mais des icônes en mouvement. On est quand même à ce moment-là dans l'icône du mystère du Christ. Ça se voit beaucoup. Par exemple, l'icône des trois saints hiérarques, qui est la fête qu'on va célébrer samedi prochain, le 30 janvier, c'est très intéressant. Et quand ils sont en vêtements liturgiques, ils ont des vêtements liturgiques, même s'ils ne sont pas identiques, ils sont cohérents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en compétition l'un avec l'autre, ils ne sont pas en rivalité l'un avec l'autre. Les trois vêtements liturgiques des trois grands hiérarques sont des vêtements qui expriment en fait leur homonia, comme on dit en grec, c'est-à-dire leur unanimité, leur consensus à la fois dogmatique et spirituelle. Donc ceci est très très important. Vous allez me dire qu'on est maximaliste, vous pouvez faire toutes les critiques que vous voulez. Moi je vous dirais qu'on essaie de faire les choses bien. On essaye de faire des choses qui ont du sens, on essaye de faire des choses qui sont profondes, on essaye de laisser le Christ nous parler à travers les formes liturgiques. Je ne sais pas, nous essayons vraiment d'être de bonne volonté, nous essayons d'être intelligents aussi, oui, de ne pas être dans le ritualisme, pas être dans le formalisme, mais d'être dans l'intelligence des choses. Je pense que c'est quand même ça, la liturgie, c'est ça aussi le sens profond du type icône, qui a toute mon affection, comme vous l'avez compris. Donc là, je parlais simplement, vous voyez, des vêtements liturgiques, des vases sacrés, vous allez dire, mais c'est rien du tout. Ben non, c'est pas rien du tout, parce que ça se voit, ils sont portés en procession, ces vases, ils vont être montrés au peuple, ils vont être inscrits dans une procession qui est magnifique, dans un gestuel qui est magnifique, qu'on appelle la grande entrée. Donc ceci doit être beau, mais d'une beauté d'église, pas d'une beauté seulement esthétique, vous voyez. Alors, on pourrait aussi parler de la beauté du geste, mais ça, c'est encore autre chose, mais c'est un sujet liturgique aussi, hein, la beauté du geste, le gestuel dans la liturgie, c'est quelque chose aussi. Hein. Voilà, donc le typicon de notre église roumaine aborde ces sujets l'un après l'autre. Ensuite, il aborde la question des offrandes elles-mêmes. Alors, ce qu'on appelle, vous savez que les offrandes, on appelle ça des prosphores, hein, ça c'est le mot grec, hein, parce que prosphero, en grec, ça veut dire apporter, j'apporte. Alors, les prosphores, c'est ce qu'on apporte. Les prosphores, c'est du pain liturgique, si vous voulez. Alors, les prosphores, elles sont, comme dit le typicon ici, des différites et formées, c'est du franc roumain, donc de différentes tailles, de différentes. C'est très très varié. Vous avez certaines fois des prosphores qui sont. Alors, celles qui sont pour l'usage dit de la divine liturgie doivent porter sur la surface supérieure l'emblème du Christ, c'est-à-dire la croix. Ça, c'est incontestable. Maintenant, il existe des prosphores qui sont confectionnés en l'honneur d'un saint, en l'honneur de la Mère de Dieu, et qui donc portent sur le dessus, non pas l'image du Christ, mais l'image de la Mère de Dieu, ou même l'icône d'un saint. Mais ces prosphores-là ne deviennent jamais l'agneau. Oui, jamais. Là aussi, nous sommes très précis. Ne peut devenir l'agneau que la prosphère qui porte déjà l'emblème du Christ, c'est-à-dire généralement le signe de la croix, sur lequel je vais revenir maintenant. Alors, qui sont. Alors, ici, au départ, il y a plusieurs usages, je vais quand même les présenter. Donc, je n'ai pas le temps non plus de parler longuement de la fabrication des prosphores, parce que c'est à la fois très important, mais c'est très complexe, c'est très varié. Il y a des usages nationaux différents quand même, il y a des façons différentes, il y a des recettes différentes pour la prosphore. Je vous renvoie à certains sites qui se trouvent sur Internet, vous avez des recettes pour la prosphore, c'est assez très intéressant. Mais qu'est-ce qui doit ressortir quand basique, c'est-à-dire effectivement l'image du Christ sur le haut, ça c'est sûr. Deuxièmement, qu'elle va être en farine de blé et de farine blanche, et les phosphores doivent être de couleur blanche parce qu'elles font allusion à la blancheur de l'agneau, donc ça c'est clair aussi, on n'en discute pas. Ensuite, le pain doit être rond, ça on l'a dit aussi, c'est pas un pain carré, c'est un pain rond, il s'agit du pain céleste, voir ce que je disais tout à l'heure sur le symbolisme des formes, le carré et le cercle. Ensuite, les phosphores doivent être faits de deux parties, incontestablement deux parties qui sont collées l'une sur l'autre et totalement unies et indissociables et qui expriment les deux natures du Christ, les deux, dont on a parlé en dogmatique la semaine dernière, si vous êtes venu, si vous avez écouté, les deux natures, humanité parfaite et divinité parfaite unies dans la personne divine du Christ, ben ça c'est exprimé par la forme de la prosphore. C'est super intéressant. Et qu'est-ce qu'elles doivent être encore, ces prosphores? Ben, elles doivent être levées. Elles doivent être levées, elles ne doivent pas être en pain azim. Ça, le pain azim n'est pas accepté dans l'Église, parce que le pain azim est le pain utilisé dans la partie ancienne de l'Alliance. Je fais exprès de ne pas dire l'ancienne Alliance, parce que pour être clair, il n'y a qu'une seule Alliance. Enfin, on va dire à l'époque ancienne de l'Alliance, disons, notre peuple élu, c'est-à-dire nous-mêmes, utilisait du pain azim. Le pain azim, c'est le temps qui n'a pas pu être, qui n'a pas eu le, c'est le pain qui n'a pas eu le temps de lever dans la précipitation où on était quand on a dû quitter l'Égypte. Vous voyez? Mais donc ça a une signification. Mais le pain levé qu'utilisent les chrétiens est un pain qui signifie la présence du Christ par le Saint-Esprit dans l'Église. Et donc cette pâte qui lève par la grâce du Saint-Esprit. Donc c'est extrêmement important. Il y a eu des discussions très très graves, entre les orthodoxes et les hétérodoxes aux époques des schismes, portant justement là-dessus, sur le fait que les orthodoxes tenaient absolument au pain levé et que les hétérodoxes voulaient utiliser du pain non levé. Bon, nous, si vous voulez, on va tenir à ça, parce que ça veut dire quelque chose. C'est pas du formalisme, c'est pas du ritualisme, mais c'est toujours pareil. Être orthodoxe, c'est faire des choses qui ont un sens. Ça, c'est pas très compliqué, hein. Oui, il y a quelque chose qui a un sens. Alors, bon, et ben, du coup, les prosphores ont un sens. Voilà, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Alors, ici, après ça, il y a des variantes. Dans certaines églises, on a une seule grosse prosphore, c'est celle-ci qui va être découpée, dans laquelle on va découper l'agneau, dont j'ai parlé déjà, et puis on va utiliser les autres parties restant de la prosphore, une pour découper la parcelle en triangle de la Mère de Dieu, et une autre partie pour découper les neuf parcelles désignant la présence des saints, des anges, des martyrs, des moines, des anargyres et des saints patrons, etc. Et c'est également dans les autres parties qu'on va découper les éléments qui se rapportent à l'évêque vivant et à l'évêque décédé, bon, mais tout ça pris dans une seule et même grande prosphore. Ça, c'est un usage qui est assez fréquent, que nous avons quand même, nous, dans notre église roumaine, et qui est l'usage, si je ne me trompe pas, quand même le plus répandu dans l'église grecque, par exemple. Et puis, il y a un autre usage qui est beaucoup plus répandu, qui est même exclusif, je pense souvent dans l'église russe, et que nous avons également dans l'église roumaine, bien entendu, parce qu'on a peut l'intégrer comme si facilement, c'est le fait d'avoir cinq prosphores. Il y a cinq prosphores, alors de petite taille, une qui sert pour le Christ, une qui sert pour la Mère de Dieu, une qui sert pour les saints, une qui sert pour l'évêque vivant et tous les vivants, et une qui sert pour l'évêque défunt et pour tous les défunts. Enfin, si je me repars. Alors ça, c'est une autre façon de faire. Alors, dans la pratique, on voit que on utilise une grosse prosphore et puis que les fidèles apportent par ailleurs dans certaines églises, ils défilent la porte avec des cierges, avec de l'argent, avec les noms des vivants et des défunts. Ils apportent une petite prosphore. Donc en fait, il y a un peu les deux usages. Mais ce qui est offert sur la patène, je ne sais pas, je trouve que les deux sont assez commodes. Si on prend une petite prosphore, ça vous fait un agneau qui est très petit. Et je ne sais pas si c'est compatible avec le fait qu'on demande aux fidèles de communier plus souvent quand vous avez, 100 personnes, 200 personnes qui viennent communier dans un calice, il faut quand même avoir un agneau de taille raisonnable. Et si vous découpez l'agneau dans une prosphore qui est trop petite, vous avez des parcelles qui sont vraiment, vraiment, vraiment modestes. Et puis c'est moins beau quand même. Le fait d'avoir un agneau qui est grand, un cube qui se voit sur la patène, c'est plus éloquent, c'est plus pédagogique quand même. Enfin, moi, je serais plus. Enfin, ça vient des opinions personnelles. Hein. Alors, le typicon ici, je regarde les notes. Hein. Oui, la note qu'on a ici, il dit que la première partie, c'est ce que je viens de vous dire, donc c'est pas la peine, que de la première prosphore, on sort l'agneau, la deuxième, on enlève la parcelle pour la Mère de Dieu, d'accord, et dans la troisième, les parcelles pour les neuf degré des saints et des oui. La quatrième, les parcelles pour les fidèles vivants et pour la cinquième, les fidèles des femmes. Parce que c'est ce que je viens de vous dire. Donc c'est cinq phosphores. Moi, je sais que l'exemple que j'ai de l'église russe, j'ai toujours vu faire ça quand j'étais de service à l'Institut Saint-Serge, par exemple, ou les évêques russes avec qui je l'ai célébré, c'était toujours ça l'usage. Mais je trouve que l'usage d'avoir une grosse prophore, c'est, je trouve ça un petit peu mieux, c'est plus éloquent quand même, plus éloquent. Bon, enfin bref, on peut en discuter. Euh, 52. Dans certains endroits, ah oui, alors ça c'est intéressant, il y a aussi, ça j'avoue, ça se voit rarement, j'ai peut-être vu une seule fois, une prosphore qui a une partie centrale et puis des espèces de, un peu comme ces pains qu'on appelle des marguerites. Hein. Parce qu'ils vous donnent des parties autour de la prosphore centrale pour y dégager les cernes. Enfin, c'est vraiment très, c'est vraiment pas l'usage le plus fréquent. Bon, alors il dit, bien sûr, dans le cas, c'est typique, « D'accord, nous avons des locs prescuri, potem folosi obucate de poine d'ospite. » C'est-à-dire qu'on peut toujours aller chez le boulanger ou faire à la maison un pain correctement et l'utiliser, bien entendu. Mais ça a beaucoup d'inconvénients, c'est que le pain du boulanger, le boulanger est très bien, si vous voulez, mais son pain n'est pas forcément ce qu'il faut. Au moment où on le taille en agneau, etc., il va pas se tailler si facilement, on va avoir des miettes partout, il va s'écraser. Pas... Je pense qu'il y a dans la fabrication du pain liturgique aussi une méthode, une recette de fabrication qui permet d'éviter des inconvénients matériels comme l'abondance des miettes ou le fait que le pain se disloque. Il faut pouvoir faire quelque chose de propre, que la prothèse, la division de l'agneau au moment de la fraction du pain, que ceci se fasse de manière propre, claire, sans des miettes partout. Vous voyez, il faut que ça soit quand même bien. C'est toujours pareil, c'est quand même le sacrifice non sanglant. Donc il faut essayer, si vous n'avez pas le temps, alors on peut même acheter le pain du boulanger, puis graver sur le dessus une croix, et même inscrire les initiales Jésus-Christ Sauveur, qu'on a généralement sur donc la prosphore qui devient l'agneau. Bon. Ce sont des adaptations en cas vraiment où nous manque. Ça peut arriver aussi. Certains prêtres, certains diacres peuvent demander, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas tout ça? Oui, ben, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de vêtements liturgiques? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de calice? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de patène? Qu'est-ce qu'on fait quand on a... Ah oui, vraiment. On se débrouille. Si vous voulez, moi, je me rappelle qu'on m'avait raconté comment ça se passait dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand se trouvaient les Russes, les prisonniers russes, donc orthodoxes, alors parmi eux, il y avait des prêtres, il y avait des évêques, alors ils se débrouillaient, ils voulaient célébrer la liturgie, et puis c'est ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, vous voyez. C'est pas interdit non plus. Vous trouvez sur une île déserte, tombé d'un avion, d'un hélicoptère en panne, vous voulez célébrer la liturgie, vous n'allez pas dire on ne célèbre pas, non, vous allez dire on célèbre, on a des prêtres qui sont là, des fidèles qui sont là, on va se débrouiller pour célébrer. Alors, je sais pas, vous ferez peut-être des chasubles avec des branches de palmiers, vous ferez peut-être des étoles avec des lianes, je sais pas comment vous allez faire, j'aimerais bien, voilà, un devoir de liturgie pour ceux qui veulent en faire, question pratique, vous êtes tombé sur une île déserte, hein, accompagné d'un évêque, d'un prêtre, d'un diacre et de plusieurs fidèles orthodoxes, hein, et vous souhaitez, parce que c'est pas que célébrer la liturgie, et vous n'avez rien, qu'est-ce que vous faites? Voilà, bon. On va voir. Alors après ça, si on fait des erreurs, on pourra toujours se confesser, mais sur une île déserte, vous n'avez pas forcément vos téléphones portables pour envoyer des SMS au Saint-Synode de l'Église roumaine et savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Vous êtes bien obligé de prier Dieu et l'Esprit-Saint en demandant à Dieu de vous rendre digne de lui offrir le sacrifice non sanglant avec les moyens du bord ou les moyens de l'île déserte. Bon, je termine sur ce chapitre de pratique. En ce qui concerne le vin ensuite, le vin et l'eau. Alors ça, on dit ici du vin pur, vin curat, chiap. Et après ça, on dit colloire, vinuli, c'est indifférent. Moi, je pense que non. Enfin, je me permets de contester. Vin rouge est préféré. Dans une lipse, c'est pas très fort aussi. Si vin albe. Pourquoi? Ben, bien sûr, si tu manques de vin, tu prends autre chose. Si tu es sur une île déserte, il n'y a peut-être pas forcément de vin rouge. Mais enfin, si vous voulez, vous avez bien compris, vous êtes tous bien au courant. Le contenu du calice est censé nous faire penser au sang du Christ. Or, le sang qui coulait dans les veines du Christ, c'est pas du sang blanc. Hein. Donc, on a ici un symbolisme évident qui est le vin de la vigne rouge. Bon, on ne va pas en faire une catastrophe non plus, mais je pense qu'on va encourager les prêtres, les jeunes prêtres en particulier, à utiliser du vin rouge, et là aussi à utiliser un vin qui soit de bonne qualité. Quand on dit vin curat, ça ne veut pas dire seulement du vin pur, pas trafiqué, si vous voulez, mais je pense qu'il faut offrir ce qu'il y a de mieux. C'est un peu ça la règle liturgique aussi, ça. Offrir à Dieu ce qu'on a de mieux. On peut être en jean toute la semaine, on peut être en pieds nus, on peut être en basket, ça n'a aucune importance. Mais quand on célèbre, on offre à Dieu ce qu'il y a de mieux. Moi, j'avais vu ça à Chypre, une année où j'ai été, les moines dans un monastère que je pourrais citer étaient vraiment très très pauvres. Ils avaient des vieilles soutanes qui tenaient avec des ficelles, ils étaient pieds nus dans des sandales qui avaient 30 ans d'usage. Après, ils étaient vraiment... Et puis le lendemain matin, je les ai vus à la liturgie, ils étaient habillés comme des princes. Les barbes étaient propres, ils avaient des vêtements magnifiques, ils avaient des chaussures aux pieds. Mais, voilà, parce qu'ils célébraient pour Dieu, donc ils offraient ce qu'ils avaient de mieux. Alors, en ce qui concerne l'eau, là c'est une remarque que je fais qui n'est pas dans le typica, mais que je fais en pensant à mes chers collègues, il est bon d'offrir l'eau de qualité aussi. Je pense qu'il faut éviter l'eau du robinet, il faut éviter les eaux qui contiennent autre chose que de l'eau. Vous allez me dire, c'est presque impossible à trouver de l'eau où il n'y a que de l'eau. C'est un peu comme les astuces de Raymond Devos, je ne sais pas quel humoriste. De l'eau où il n'y a que de l'eau, c'est très difficile à trouver. Ben, je sais bien, parce que dans l'eau, il y a toujours quelque chose qui n'est pas de l'eau. Enfin, au moins, de l'eau de source. De l'eau minérale, si vous voulez, mais de l'eau de source dans laquelle on n'a pas ajouté d'éléments chimiques. Je ne suis pas chargé de nommer ici, mais l'eau qui coule dans le robinet de France comporte beaucoup d'éléments chimiques. Je peux vous le dire parce que j'ai essayé, par exemple, de garder des poissons rouges dans l'eau du robinet, et je vous assure qu'au bout de 3 jours, il n'y avait plus personne. Hein. Donc, la preuve est faite que dans l'eau, il y avait autre chose que de l'eau. Non seulement il y avait des poissons, mais les poissons ne restaient pas vivants. Voilà. Donc, c'est rien du tout d'offrir de l'eau. Mais on offre cette eau. Le peu d'eau qu'il y a dans le calice, c'est une partie minuscule, elle fait comme partie de l'offrande. Donc, on offre à Dieu la belle eau, la meilleure eau qu'il a créée lui-même. Parce que vous savez que nous disons à Dieu, ce qui est à toi, nous te l'offrons à toi pour ceux qui sont à toi, etc. Donc, c'est-à-dire que nous offrons à Dieu la plus belle eau possible. Je me permets d'insister un petit peu là-dessus. Et après ça, le Dipicon termine sur les livres liturgiques. Je ne vais pas aborder ce sujet-là, ça va être un petit peu long. J'en ai déjà parlé par ailleurs, donc je vais peut-être m'arrêter là-dessus pour ce qui est des éléments. Mais vous voyez, pour conclure là-dessus, que là on n'a même pas commencé la liturgie. Vous voyez, on est en train de préparer, on est en train de... Il aurait fallu dire aussi, mais je me permets de le dire maintenant, que c'est formidable quand le sanctuaire est propre, quand la nappe qui est sur l'autel est propre, quand les cierges qui sont posés sur l'autel sont neufs, quand les veilleuses ne sont pas encrassées par une huile centenaire, quand il n'y a pas 36 bouquins posés sur l'autel comme sur une bibliothèque, quand c'est bien rangé comme dans le sanctuaire, quand le ménage y a été fait, quand les voiles rouges sont propres chaque fois. Ça, je veux dire aussi que c'est assez important que, si vous voulez, la liturgie, elle est unique. Donc chaque célébration de la divine liturgie doit donner ce caractère d'unicité. Moi, je pense que si on n'est pas trop pauvre, on peut avoir des cierges neufs chaque fois. Et si on n'est pas trop pauvre, on peut avoir un voile rouge, le voile de calice qui sert pour la communion, propre chaque fois, pas un linge qui a déjà servi le dimanche dernier, ou mercredi dernier, ou jeudi dernier. C'est-à-dire célébrer avec du neuf, de même avoir des eaux propres, des vêtements liturgiques propres. Oui, ça c'est quand même important aussi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même le roi du monde qui est là. Nous sommes les serviteurs du roi du monde. Je regrette de dire, mais sans méchanceté, simplement pour dire que c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, qu'il m'est arrivé d'entrer dans des sanctuaires d'église où les choses étaient un petit peu crasseuses, vous voyez. Le voile rouge avait servi 50 fois, oui. Mais ça, je trouve que ce n'est pas normal. On peut avoir des voiles rouges. Il y a toujours dans les paroisses quelqu'un qui est ravi de les repasser, les nettoyer. C'est pas un problème, ça, oui. C'est vraiment important. De façon à ce que la célébration liturgique ait quand même son caractère d'unicité, de splendeur, de toujours cette parole que vous disiez, qu'elle corresponde à l'amour qu'on a pour la beauté de la maison de Dieu. Voilà, merci beaucoup, pardon pour tout. J'espère que c'est utile. Enfin, moi, je pense que c'est utile parce que ça correspond à mon expérience.